Vous allez entendre un message de William Branham intitulé « La manière d'un vrai prophète » prêché le 13 mai 1962 à Jeffersonville, Indiana, USA. Eh bien, bonjour mes amis. C'est un beau matin et c'est agréable d'être ici. Je suis heureux d'être en vie ce matin et d'être ici avec cette assemblée une fois de plus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en si peu de temps, et nous ne savons pas à quel moment nous serons appelés pour répondre au grand tribunal, et nous voulons être prêts à tout moment. Nous pouvons ainsi avoir la paix. Et je suis très reconnaissant, comme je l'ai dit. Naturellement, dimanche soir, j'étais ici, et je me suis adressé aux gens, j'ai prêché dimanche soir, et j'aimerais remercier frère Robertson et vous tous qui avez téléphoné pour avoir aimé ce message dimanche soir. Nous possédons toutes choses. Et ainsi, je ne pensais pas que j'allais prêcher. Je suis seulement descendu et j'ai regardé à frère Neville et sa gorge, c'est comme s'il y avait un bourdon là-dedans. Et je me suis dit, pauvre frère, si vraiment il vient me voir ce soir, je vais le secourir ou faire tout ce que je peux. Car je sais ce que cela représente quand on est fatigué et enroué, et que vous avez prêché durement ce matin-là, et ainsi j'ai parlé à sa place dimanche soir. Et ainsi nous sommes, je vous remercie beaucoup. Maintenant on dit qu'il y a beaucoup de requêtes de prière, et ainsi pensons-y d'abord tout simplement à toutes ces requêtes. Inclinons la tête maintenant. Notre Père Céleste, il est écrit que nous devons entrer dans tes assemblées avec des actions de grâce dans nos cœurs, faire connaître nos requêtes dans les assemblées des saints. Et nous en avons beaucoup ce matin, beaucoup au point que nous ne savons comment les porter à ton attention, mais tu les connais. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas été exprimés, tu les connais aussi. Ainsi nous prions de tout notre cœur, comme nous l'avons fait le soir du dimanche dernier, pour l'enfant de la sœur du frère Schaeffer. Là alors que dans le reviendrai, le Saint-Esprit a dit, elle n'a pas de polio, elle se rétablira. Quelle satisfaction nous avons lorsque nous recevons un message de ta part. Maintenant, nous te demandons ce matin de vouloir exaucer ces requêtes pour les malades, pour la famille endeuillée, pour les bien-aimés et pour tout ce dont on a parlé, Père. Nous te prions de bien vouloir te souvenir de chacune d'elles, et je t'offre ma prière ainsi que celle de ceux qui sont réunis devant toi, au nom de Jésus-Christ. Exauce-nous, Père, nous t'en prions. Amen. J'aimerais remercier chacun de vous, sans exception, pour vos prières en ma faveur, pendant que vous savez, j'ai eu une petite explosion là, dans la prairie. Et Satan a essayé de me tuer, naturellement, il ne pouvait pas le faire. Dieu n'en avait pas encore fini avec moi. Eh bien, il ne peut tout simplement pas le faire avant que tout ne soit terminé. Quand Dieu aura fini, alors je serai prêt. Mais mon cher ami, frère Wood, qui est là-bas, n'eût été la miséricorde de Dieu, il n'aurait retrouvé de moi que d'ici jusqu'en bas et rien d'ici jusqu'en haut. Il y a eu une explosion d'environ 5 ou 6 tonnes tout près de mon visage, comme ça. Ça ne m'a pas du tout fait du mal, voyez-vous. Ça m'a un peu égratigné le visage, si bien que... Mais c'est complètement terminé maintenant. Il n'en reste là qu'une petite tache. Ainsi, je désire remercier frère et sœur Dow, qui sont ici, frère Brown et les autres, qui, d'après ce que j'ai compris par entretien téléphonique, ont réuni un groupe de gens et ont prié pour moi. C'est quelque chose... Cela vous fait quelque chose, vous savez, vous priez pour les autres et ainsi de suite, mais alors lorsque vous découvrez que quelqu'un prie pour vous, quand vous en avez besoin, cela signifie beaucoup. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas téléphoné ni fait quoi que ce soit, mais vous avez exactement fait la même chose. Et cela signifie beaucoup pour nous, et c'est pour cette raison que j'en suis sorti indemne. Dieu m'a épargné et j'en suis donc très reconnaissant. Maintenant, j'ai quelques annonces juste avant de consacrer ces petits amis. Maintenant, ce soir, il y a un service au tabernacle. Et vous tous qui venez ici au tabernacle, venez directement à ce service. Ainsi, nous allons Je vais parler ce soir à la place de frère Riddle, l'un de nos frères visiteurs, là sur l'autoroute. Et ensuite, aussitôt que je rentre, si j'ai un autre soir, je désire aller chez frère Juni Jackson. Et puis, ce frère là-bas, à Sellersburg, nous lui devons une soirée là-bas. Ainsi, nous voulons aller là-bas, lui rendre visite. Le frère là, Utica, arriver à ses soirées autant qu'il nous est possible. Cette semaine, je pars pour Green Bay dans le Wisconsin, comme vous le savez, à la convention régionale des hommes d'affaires du plein évangile. Dimanche prochain, je serai à cette école secondaire où là où j'étais la dernière fois. Et j'oublie le nom de l'auditorium de cette école secondaire. C'est comment? Stephen Murphy. Oui, très bien. L'auditorium de l'école secondaire. Et puis lundi, je serai à une convention, là où j'ai eu une discussion avec cette association des ministres, là à Chicago, la fois dernière. Nous serons à cet endroit pour une réunion d'adieu à frère Joseph Bosé, qui s'en va au Tanganyika. Je crois qu'il l'appelle Tanganyika au Kenya, à Durban et partout là-bas, pour faire des arrangements en vue de mes réunions d'automne prochain, et en Afrique, à travers l'Afrique du Sud. Et alors nous vous demandons de vous souvenir de nous dans la prière pendant ces réunions. Ensuite nous rentrerons. Maintenant j'ignore si j'aurai ou non le temps d'avoir un autre jour au tabernacle avant d'aller par la suite en Caroline du Nord et puis de là en Caroline du Sud et ensuite partout là-bas jusqu'à la Cow Palace et à Los Angeles, à Southgate. Et c'est là que j'espère avoir l'occasion d'aller voir Monsieur Weaverby, celui qui a fabriqué la carabine dont la cartouche a explosé à l'intérieur. Il avait trop reculé la chambre à munitions, et cela a fait reculer la cartouche au lieu de la laisser avancer. C'était une vieille carabine. Je la lui avais simplement envoyée et il lui avait donné alors un calibre convenable. Et l'avait transformée en une autre espèce de carabine. Et j'y ai mis la cartouche et je me suis levé pour tirer. Et cela a fait éclater le fusil sur un rayon d'environ 46 mètres autour de moi, comme cela. Et il s'est désintégré dans ma main. Le canon s'est envolé sur une distance d'environ 46 mètres. La culasse mobile a été directement renvoyée derrière l'enclos à serre à une distance de 28 à 37 mètres derrière moi. Et des particules de projectiles se sont envolées, ont arraché les écorces d'arbres et tout le reste. C'était si proche de mon œil, à environ 2,5 cm, là où cela avait ainsi explosé. Et si cela avait explosé, et ce fusil peut supporter une pression de 6 900 livres, 33 000 ou 333 450 kilos, note du traducteur, sans exploser, vous pouvez alors vous imaginer ce qu'il y avait là-dedans pour produire cela. Et rappelez-vous, si cela l'avait fait exploser, serait pu aussi me faire sauter la tête et les épaules, voyez-vous. Mais le Seigneur se tenait là. Il n'a même pas permis que cela me fasse du mal. Ça m'a un peu égratigné le visage et un petit projectile est entré en dessous de l'œil. Il a décrit un cercle autour de la pupille de sorte qu'il ne l'a pas touché à l'endroit où il s'est logé. L'un des gros morceaux qui était entré dans le crâne avait contourné l'œil sans y entrer. Ainsi, oh là là! Il n'y a pas longtemps, vous vous en souvenez, je vous ai dit qu'il était venu vers moi dans la chambre et m'avait dit « Ne crains pas, car la présence infaillible de Jésus-Christ est toujours avec toi. » Ainsi, c'est la preuve qu'il existe. Le médecin qui a examiné mon œil à Louisville a dit « Ils ont répondu par écrit à notre ami, le docteur Sam Aders, ici présent, disant « La seule chose que je puisse dire, c'est que le Seigneur se tenait ce matin-là auprès de son serviteur pour le protéger, sinon il ne lui resterait ni tête ni épaule. Il a donc été vraiment bon pour moi, et j'apprécie cela. Cela me rend toujours un peu différent. Et puis 2 jours après cela, ou 3 jours après, j'allais partir pour le Canada à une réunion que j'avais programmée. L'homme, sans rien savoir de tout ceci, me téléphona encore, car il devait ajourner la réunion. Voyez-vous, je me serais retrouvé là en route, si la chose ne s'était pas produite, voyez-vous. Et ainsi on a téléphoné une fois de plus, car je dois tenir la réunion du Canada, et ce sera en juillet, les dernières semaines de juillet. Ensuite, je me rendrai à Dobson Creek, puis à Anchorage, en Alaska, le Seigneur voulant. Maintenant, je n'ai reçu aucune directive pour me rendre à l'une de ces réunions, aucune. mais je ne puis concevoir de rester ici tout l'été, rester par ici alors que les gens meurent partout. Je dois semer les semences n'importe où, peu importe ce qu'il y a, même si elles ne poussent pas, même si les oiseaux du ciel les mangent, même si n'importe quoi arrivait. Je désire semer les semences parce qu'il m'a donné quelque chose à semer. Ainsi je vais de toute façon semer la semence. Maintenant nous avons un temps ici, maintenant beaucoup de gens, ce qu'ils appellent baptiser les petits-enfants dans la foi chrétienne, eh bien, c'est très bien si vous le faites, c'est votre affaire. En réalité, ils ne les baptisent pas du tout, ils les aspergent simplement d'eau sur la tête. Quant à moi, j'aime rester simplement avec ce que la Bible ordonne. Par conséquent, c'est seulement ce que dit la parole que je désire faire, seulement ce qu'elle dit. Et maintenant, je ne trouve nulle part dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on amenait les enfants pour la circoncision dans la chair, les petits garçons, et la mère offrait un sacrifice de purification, deux tourterelles ou un agneau. Mais dans le Nouveau Testament, l'unique passage que je trouve pour la célébration de ce grand service de... c'était une consécration. On amena des enfants à Jésus, et il les prit dans ses bras et les bénit. C'est ce qu'avaient fait les parents de son époque. Or, sa vie était un exemple de ce que nous devrions faire, voyez-vous. Il faisait ces choses en guise d'exemple. Maintenant, nous prenons simplement les enfants, on nous les amène, et nous les présentons simplement à Dieu, et nous invoquons les bénédictions de Dieu sur eux, puis nous offrons à Dieu une prière de consécration de la mère et du père pendant qu'ils présentent leur enfant. Et nous les consacrons au nom de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils soient assez âgés pour être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et maintenant il a dit que tout ce que nous faisons en parole ou en acte, faisons tout cela au nom de Jésus-Christ. Ainsi, c'est ce que nous voulons faire. Et maintenant, pendant que la sœur joue doucement ce petit cantique, sœur, nous avons ici, amenez-les. Et les mères et les pères qui ont ces petits bébés qui n'ont jamais été consacrés au Seigneur, si vous voulez les amener maintenant, pendant que la congrégation, pendant que nous chantons doucement à leur intention maintenant, amenez les enfants à Jésus. J'aime ces petits amis, il y a en eux quelque chose de vraiment doux. Frère Branham consacre les bébés, note de l'éditeur. Oh, j'aime vraiment ces petits amis, chacun est le plus beau bébé du monde. Il n'est vraiment pas nécessaire, quand j'ai amené le petit Joseph à la maison, c'était, honnêtement parlant, le bébé le plus laid que j'ai jamais vu. Mais sa mère et moi, nous pensions qu'il était une poupée. Mais vous savez, c'est comme ça, nous pensons simplement cela. Je me demande ce matin, certains de nos membres d'ici, il y avait un... Maintenant, cet œil-ci a de la belladone dedans, ça rend vraiment flou. Mais sœur Nash se renseignait au sujet du frère Nash. Je me demande s'il s'est rétabli. Est-ce que sont-ils ici? Oh, eh bien, oui, il est ici. Gloire au Seigneur. Frère Nash, c'est bien. Alors, sœur Edwards, est-elle là, ou sœur Shepherd, qui avait une fillette malade? Elle va très bien maintenant. Bien, j'en étais informé. Et en fait, c'était juste 5 minutes avant que je n'aie reçu des gens venus de l'extérieur de la ville pour l'entretien. J'ai couru dans la chambre et j'ai prié. Et on disait que l'enfant était atteint de la polio. Ses bras et ses jambes s'ankylosaient. Alors je suis entré en courant pour prier. J'ai dit, je vais venir après le culte. J'ai dit à Loïs de rappeler pour informer la dame que j'y serai après le culte. Que si elle avait besoin de moi, qu'elle me téléphone. Et quand je suis entré pour prier, l'Esprit a dit, il n'y a pas de polio, elle se rétablira. Je suis venu, eh bien, nous avons tous prié ici à l'église. Ainsi, le problème a été tout simplement réglé. Frère Branham converse avec une dame dans l'assemblée, note de l'éditeur. Oui, madame, gloire au Seigneur, la prière change les choses. Dis donc, il n'est pas ici ce matin, n'est-ce pas le beau-fils? Dimanche passé, la dernière fois que j'ai prêché ici, le dimanche il y a une semaine, un jeune homme était assis ici. Je le regardais sans cesse, je me disais, je dois connaître ce gars. J'ai fini par découvrir que c'était le fils de mon vieux condisciple, Jim Poole. Eh bien, nous avions grandi ensemble depuis l'enfance. C'est par lui qu'autrefois j'avais eu cet accident de fusil de chasse. Et puis plus tard, il en a eu un lui-même. Et c'est un ami à moi. J'ai la conviction que je peux conduire ce garçon à Christ. J'ai essayé de mon mieux avec son papa et je crois que je le ferai encore. Je le ferai entrer. J'espère que je pourrai conduire ce jeune homme. Il avait je l'ai observé, il semblait avoir une bonne vibration de l'esprit, comme je l'appelle. Maintenant, ne faites pas cette observation à n'importe qui d'autre, même. Une bonne disposition. Je crois que ça ne demandera pas beaucoup pour conduire ce garçon à Christ. Ainsi, prions pour lui. C'est juste. Et frère, voyons, quelqu'un d'autre qui était malade ou quelque chose de ce genre, auquel j'essaye de penser, toutefois, nous prions pour tous. Et parfois, quand vous envoyez une requête, souvenez-vous-en, aussitôt que je la reçois, ma femme est quelque part dans le bâtiment, je pense, elle sait cela, aussitôt que je reçois une requête, je vais directement à mon cabinet de travail pour prier. Et j'y reste jusqu'à ce que je sente quelque chose. Je n'abandonne simplement pas cela. L'autre jour, lorsque Sam, docteur Sam, enlevait cette chose de mon œil, il essayait de l'enlever, et ça lui a fait tellement de la peine qu'il a dû placer une serviette sur mon visage, disant, « Je ne peux pas voir le sang de mon ami. » Il dit, et j'y baignais, vous savez, il dit, « Je ne peux tout simplement pas voir cela et continuer à opérer. » Voyez-vous ? Ainsi, il a enlevé cela, et le lendemain, il a été hospitalisé. Alors j'ai prié pour lui, et il en est ressorti en bonne santé. Et puis le jour suivant, c'était sa femme. On ne savait même pas ce qu'elle avait. On pensait qu'elle était atteinte de polio, voyez-vous. Et on a prié pour elle, et maintenant, elle est à la maison en bonne santé. Alors nous sommes entrés dans la salle, doc. Nous sommes entrés dans le bureau, et nous avons fermé la porte ensemble. Il a dit, « Maintenant, frère Bill, je vais te demander quelque chose. » Il a dit, « Veux-tu prier pour Betty et moi ?» J'ai dit, « Pouvons-nous, prions ?» En effet, c'est pour lui que le Seigneur avait montré la vision de l'endroit où bâtir la clinique. Vous vous souvenez de l'histoire. Si jamais vous en doutez, allez une fois le lui demander. Oui, il disait simplement, laissez simplement venir n'importe qui. Il disait, je l'ai raconté à 10 000 personnes. Un homme dit à haute voix dans l'assemblée, frère Branham, note de l'éditeur. Frère Branham. Oui, frère. L'homme dans la congrégation continue, à l'intention de ceux qui sont ici ce matin et pour susciter plus de foi dans les cœurs des autres, le matin du dimanche de Pâques, vous avez appelé ici une précieuse âme, la troisième, c'était un homme, vous avez dit qu'il venait de Seymour, et sous l'onction du Saint-Esprit, vous avez dit, on vous appelle Bill, je connais cet homme, je le connais très bien, et après nous sommes partis d'ici. Son nom est Isaac. On l'appelle vraiment Bill, note de l'éditeur. Oui, monsieur, voyez-vous, son vrai nom est Isaac, mais on l'appelle Bill. Le Saint-Esprit ne commet pas d'erreur. Il est infaillible. Maintenant, quelqu'un parlait disant, j'ai 53 ans et 30, pendant environ 31 ans, je me suis tenu derrière la chaire et je l'ai vu dans des milliers et des milliers de cas. Hier, j'étais là-bas, au sud du Kentucky, juste à la frontière avec le Tennessee, et j'étais assis dans un bateau avec frère Dalton, celui à qui le Seigneur a donné tous ses enfants. Vous vous souvenez de ce matin-là quand il commença. Et il dit, « Frère Branham, dit-il, je pense qu'il vous sera difficile de faire des évaluations. » J'ai dit, « Oh, frère Dalton, des milliers et des milliers de choses semblables. » Il dit, « Ne voulez-vous pas essayer d'écrire un livre ?» J'ai dit, « À ce sujet ?» J'ai répondu, « Oh là là, frère Dalton, ça déborderait ce bateau-ci, ce serait une encyclopédie, des tas de livres sur ce que j'ai vu le Seigneur faire. Et pas une seule fois, il n'a failli, voyez-vous, pas une seule fois, mais c'est parfait chaque fois. Je crois maintenant, si je ne me trompe pas, la fille du frère Shepherd, vêtue d'une espèce de robe d'apparence orange. Je pense que c'est cela. Je me suis arrêté à côté d'elle un matin. Elle descendait à pied et je me suis dit qu'il se pourrait que je transporte une autre fille à la place, alors je suis reparti. Ainsi, c'était moi qui m'étais arrêté, sœur. Je pensais que c'était la fille de frère Shepherd et je voulais la transporter, car je pensais que peut-être sa voiture était tombée en panne ou quelque chose d'autre. Nous allions prendre Becky, et j'ai pensé que ça pouvait être la fille qu'il ne fallait pas, mais maintenant je vois qu'elle est assise avec eux, là, alors. Je crois que c'était bien elle. C'était donc moi qui m'étais arrêté là en voiture et étais ensuite reparti. Ainsi, est-ce que tout le monde aime le Seigneur Jésus? Oh, c'est merveilleux! C'est vraiment très bien! Amen! Quelqu'un parle à frère Branham, note de l'éditeur. Bien, frère Willard, nous sommes bien contents de vous avoir ici. Et en plus, vous avez très bonne mine, la meilleure forme dans laquelle je puisse vous voir. Nous avions tous deux des visages gonflés comme des hamburgers. Et je donne l'air de m'avoir attrapé une poignée. J'ai observé frère Willard cette nuit-là quand il s'était endormi. Et sans exagérer, il avait l'air affreux. Mais ce matin, vous avez vraiment bonne mine. Et nous remercions et louons Dieu pour cela. Amen. Vous savez, le diable ne peut pas nous tuer à moins que Dieu ne dise « Viens maintenant ». C'est alors que nous désirons nous en aller. N'est-ce pas, frère Willard? C'est vrai. Avant ce temps-là, il ne fait qu'essayer en vain. C'est tout. Le Seigneur Jésus est notre secours et notre refuge. Maintenant ici, voilà que je traîne en parlant, alors que j'ai à peu près 6 heures pour prêcher ce matin, voyez-vous? Maintenant, nous n'avions jamais annoncé cela, nous n'avions pas envoyé David ni rien d'autre parce que j'avais déjà annoncé que je ne serais pas ici. Mais je ne suis descendu que pour aider Frère Neville et vous revoir vous tous et passer un petit moment de communion fraternelle. Et dimanche soir dernier, frère Roy Robertson, je ne sais pas s'il est là ou pas, je n'arrive pas à bien distinguer pour voir s'il est là. Il m'a téléphoné, m'a parlé du message et quelqu'un a téléphoné et a dit « J'étais émerveillé quand vous avez parlé de ce que Dieu nous a donné toutes choses. » Voyez-vous? Il l'a fait, il nous donne la vie, nous essayons de l'acheter, il nous a donné l'amour, nous essayons de l'acheter, il nous a donné la joie, nous essayons de l'acheter, il nous a donné la paix, nous essayons de l'acheter. Il n'y a pas moyen d'acheter cela, voyez-vous, vous ne pouvez pas acheter cela. Puis j'ai dit, il nous a donné la mort. Quelqu'un a téléphoné pour dire, prédicateur, je me suis demandé où vous alliez aboutir avec cela. Il a dit, je me suis dit, oh là là, frère Branham s'est coincé cette fois-ci. Pas lorsque la Bible dit, voyez-vous, la Bible dit qu'il nous a donné la mort. Eh bien, que pouvons-nous faire avec la mort? Vous savez, Paul a dit, et c'était un bon pays. Il fallait 2 hommes pour porter la preuve, au point que nous en avons le gage, car un jour nous avons marché dans le péché, et après avoir été baptisés en son nom, être ressuscités avec lui dans la résurrection, nous avons été tirés hors du péché pour ne plus désirer y retourner. Voyez-vous, nous sommes ressuscités du péché avec l'évidence que nous avons, que nous sommes potentiellement dans la résurrection de toute mort. Voyez-vous, si nous pouvions ressusciter du péché par la foi en lui, et s'il y a le péché, qui voudrait encore retourner aux poubelles du péché? Voyez-vous, nous sommes passés de la mort à la vie. Voyez-vous, et c'est cela le gage. Amen. Amen. Cela est le gage de la complète résurrection, toute mort physique et spirituelle. Nous avons déjà vaincu la mort spirituelle, puisque nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Et de même qu'Élie descendit un jour au Jourdain, le frappa en compagnie d'Élisée, et l'eau se fendit et il traversa, il revint avec une double portion. De même, quand nous frappons le Jourdain en compagnie de Christ, nous recevons une portion. Mais lorsque nous retournons, nous revenons avec une double portion. Nous avons maintenant la vie éternelle. Nous sommes ressuscités du péché dans la justice par le Saint-Esprit. Et puis, en revenant avec Christ, nous revenons avec la résurrection physique. Et en même temps, nous avons déjà la résurrection spirituelle. Nous en avons une double portion. Élisée et Élie, c'est toujours un type de Christ et de l'Église. Oh, je ne veux pas entamer cela. Oh là là, oh là là, oh là là. Nous ne terminerons jamais ce message de 6 heures. Frère Neville parle à frère Branham, nom de l'éditeur. Oui, ce n'est pas de la chair sur les os, frère Neville. C'est toujours loin. Oh, n'êtes-vous pas heureux, voyez-vous? n'avons pas, il n'y a plus de souci. La mort n'est rien, nous l'avons conquise, elle est à nous, elle ne peut pas avoir autorité sur moi, c'est moi qui ai autorité sur elle. Comment ? Par lui qui a fait de moi un vainqueur, parce que j'ai déjà vaincu la mort. Comment l'ai-je vaincu ? En croyant en lui. Voyez-vous, la mort est dans le péché, l'incrédulité. Je ne suis pas un incrédule, je suis un croyant, je suis ressuscité de cet état, ressuscité. C'est le gage de toute ma complète résurrection, physique, spirituelle et autre. Oui, monsieur, le comprenez-vous ? Ainsi, nous avons vraiment la mort sous notre autorité par Jésus-Christ qui a vaincu la mort, l'enfer, la tombe, la maladie, les afflictions et tout le reste. Il a triomphé de tout. Et nous sommes maintenant ressuscités avec lui, assis dans les lieux célestes, spirituellement parlant, en Christ Jésus, ayant toutes choses sous nos pieds. Amen. Même la résurrection physique est sous nos pieds parce que nous sommes en Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez cela ? Si oui, levez la main. Amen. C'est bien. Seulement aussi longtemps que vous comprenez cela, c'est bien. Voyez-vous ? Ne laissez pas maintenant continuer simplement à garder cela à l'esprit. Voyez-vous ? Nous sommes passés de la mort à la vie. Tout ce qui est physique, spirituel et toute chose nous appartiennent maintenant. Alors que ce monde-ci dit que nous sommes fous, la terre entière nous appartient. Mais comment allez-vous hériter de cela? Quand, comme je l'ai dit concernant Abraham, voyez-vous, lui se trouvait dans la terre promise. Dieu la lui avait donnée. Lot avait été enlevé par quelques renégats hors la loi. On l'avait enlevé. C'était son neveu. Très bien. Tout ce qui était dans ce pays appartenait à Abraham. D'ailleurs, il n'était pas un guerrier. Il n'avait jamais combattu. Il n'avait aucun guerrier avec lui. Il n'avait que des serviteurs. Mais quand il a vu que quelque chose, que le diable était venu lui dérober quelque chose qui lui avait été promis, il arma ses serviteurs et il prit lui-même une arme. Il ne savait pas comment il allait vaincre tout ce groupe de rois, rien qu'avec une poignée de serviteurs. Mais Dieu lui dit comment le faire. Et il divisa sa troupe et massacra les rois et revint triomphant. Pourquoi ? Il avait placé sa foi sur la promesse de Dieu, selon laquelle tout dans ce pays-là lui appartenait. Et Lot en faisait partie. C'est vrai, il faisait partie du pays. Oh là là ! Et là, il rencontra Melchisédek, après que la bataille fut terminée. Ne pouvez-vous simplement pas voir Abraham remonter la route ? Il ne savait pas qu'il était guerrier, mais après, il le sut. Oui, monsieur, et il rencontra celui qui avait donné la promesse, Melchisédek. Maintenant, lisons dans le livre d'Amos. Je vais parler ce matin, non pas pendant 6 heures, je ne le souhaite pas, voyez-vous, sur un sujet que la manière d'un vrai prophète. Et ce soir, Dieu voulant, je vais parler sur laisser échapper la pression. Et donc, si le Seigneur le veut. Maintenant, on me prend pour un critiqueur, mais j'aimerais, je ne suis pas un critiqueur, si ce n'est à l'égard de tout ce qui est faux, voyez-vous, mais nous devrions critiquer ce qui est faux. Maintenant, si vous voulez mettre vos magnétophones en marche dans cette pièce, eh bien, c'est très bien. Je désire lire maintenant dans Amos, chapitre 3, le chapitre 3 d'Amos, juste une portion de cela. Amos 3. Écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous, ô enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte, disant, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtirai pour votre iniquité. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus ? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau peut-il tomber dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Certainement, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi, qui ne serait effrayé? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait? Ses yeux ont dû se rétrécir pendant qu'il se tenait ce matin-là sur la colline, juste au-dessus de la ville de Samarie. Je peux voir comment ses mains fermes parcouraient sa barbe grise, le soleil tapant dur. Il n'était pas si attrayant pour attirer les regards. Combien il était différent de l'évangéliste moderne d'aujourd'hui. Ses vêtements étaient en haillons et sa barbe d'apparence hirsute. Et il baissa les regards sur cette ville de Samarie. Ses yeux se rétrécirent pendant qu'il regardait. Il n'était pas très beau, mais il avait le « Ainsi dit le Seigneur » pour cette nation. Peut-être que cette campagne qui approchait, celle pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé en Samarie, était de loin différente de ce que serait celle de nos évangélistes modernes. Il n'était pas équipé pour un tel réveil comme nous pourrions penser qu'il devrait l'être aujourd'hui. Mais rappelez-vous qu'il n'était pas un évangéliste moderne. Il était un prophète. Il ne se souciait pas de l'équipement moderne. Il avait le « Ainsi dit le Seigneur ». Il ne s'occupait ni de son apparence, ni de son accoutrement. Que ses cheveux soient bien peignés ou pas, qu'on le regarde ou pas, il avait la parole du Seigneur. Et tout son objectif était d'apporter la parole du Seigneur. Qui était cet homme? Oui, c'était Amos le prophète, une personne rude, mais il savait où il se tenait. Il savait ce qu'il faisait. C'était un véritable prophète de la parole. Et la raison pour laquelle il était venu dans cette ville était que la parole était venue à lui. Et quand la parole du Seigneur vient à un vrai serviteur, il doit aller sans tenir compte des circonstances ni des difficultés. Il doit aller de toute manière. Qu'il soit préparé, qu'il en ait envie, qu'il le veuille, que sais-je encore, il doit y aller de toute façon. C'est Dieu qui parle et il faut qu'il apporte ce message parce que c'est... Il n'y va jamais pour des bêtises, il n'y va jamais pour de l'argent, il n'y va jamais pour la popularité, il n'y va qu'au nom du Seigneur et pour une seule chose. Il a une mission et il est envoyé par le Seigneur et il est la parole de Dieu parce qu'il porte la parole du Seigneur. C'est cela un vrai prophète du Seigneur. Mon sujet est la manière d'un vrai prophète de Dieu. Ce grand et intrépide homme de Dieu prophétisa dans les jours de Jéroboam II. J'ai une partie de son histoire écrite ici devant moi. Il prophétisa pendant environ les 13 ans que dura sa campagne. Et Jéroboam II était un homme presque aussi habile et intelligent que ceux qu'Israël avait eus pendant un certain temps. C'était un homme qui avait amené la prospérité en Israël. Israël prospérait en tout, mais il était... Quelque chose n'allait pas, il était un idolâtre. Et je, en lisant un peu cela l'autre jour, j'ai plutôt pensé que cela correspondait bien aujourd'hui. Peu importe combien un homme est intelligent, et peu importe ce qu'il peut faire, et combien il est prospère, s'il s'éloigne de Dieu, il est redevable à la nation, étant loin de Dieu et de sa parole. Je me demande si cela ne s'applique pas à nous aujourd'hui, à quelqu'un qui aime paraître à la télévision et montrer combien il est distingué et combien il est intelligent. Mais je me demande s'il l'est assez pour recevoir le « Ainsi dit le Seigneur ». Il était un homme habile, un homme très bien. Israël était dans une condition rétrograde. Ses prédicateurs, ses sacrificateurs ainsi que son gouvernement avaient tous abandonné la parole du Seigneur. Maintenant, ils ne la croyaient plus. Ils croyaient qu'ils avaient la parole du Seigneur, mais telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Pourquoi étaient-ils dans l'erreur? Ou bien, est-ce que quelqu'un pouvait croire qu'ils étaient dans l'erreur? Tout un sacerdoce, des milliers de prédicateurs, de prêtres, de rois et de gouverneurs qui confessaient tous être des adorateurs de Dieu et qui pourtant étaient tous dans l'erreur? Alors ils n'avaient pas besoin d'un roi pour la prospérité. Ce dont ils avaient besoin, c'était un prophète. Car la parole du Seigneur où l'interprétation de la parole du Seigneur vient un vrai prophète. Parfois, vous pouvez voir ce qu'est alors sa manière. C'est une voie très difficile lorsque tous les prêtres, tous les prédicateurs et tous les devins et le gouvernement lui-même sont contre lui. Et pourtant, la parole du Seigneur vient au prophète et à lui seul. Il a la vraie parole, bien qu'ayant la même Bible qu'eux, mais la parole venait à lui. Dieu confirmait qu'il avait la parole. Ils avaient les plus grands bâtiments, des systèmes religieux et autres choses qu'ils aient jamais eues, des hôtels construits partout et toutes sortes de choses. Et pourtant, ils étaient à 1 million de kilomètres, loin de la parole de Dieu. Je pense personnellement que ce tableau correspond très bien à aujourd'hui, selon ce que je lis dans ce livre d'Amos. Il faut que vous le lisiez quand vous rentrerez chez vous. Tout le gouvernement, les sacrificateurs, eux tous avaient abandonné la parole de Dieu. J'aimerais juste lire une autre portion de l'Écriture que j'ai ici pour montrer où ils avaient fait cela. Maintenant, lisons chapitre 2, verset 4, pendant juste une minute. Ainsi dit le Seigneur, à cause de 3 transgressions de Juda et même de 4, je ne révoque pas le châtiment parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel. C'est-à-dire la parole. Ils l'avaient méprisée, pourtant ils pensaient qu'ils l'avaient. Et qu'ils n'ont pas gardé mes ordonnances et que leurs mensonges les ont fait errer. Or ils avaient la parole, la Bible, mais les mensonges qu'ils y avaient mêlés les ont fait errer. Après lesquels leurs pères ont marché. Voyez-vous la raison? Maintenant ils commirent des erreurs parce qu'ils avaient ajouté leur propre traduction ou interprétation à la parole. Et j'ai pensé que cela correspond à ce jour-ci où beaucoup de gens aiment ajouter leurs propres idées à la parole. Et nous entrons dans un gâchis. Amen. Quelle réprimande ce prophète a porté de la part de Dieu! Maintenant, Amos était un prophète de Dieu, un véritable prophète. Quiconque a déjà lu au sujet d'Amos connaît la hardiesse de cet intrépide homme de Dieu. On le considère comme l'un des prophètes mineurs parce qu'il n'a pas vécu très longtemps. Mais il mit assurément la cognée à la racine de l'arbre. Il fut l'un des prophètes les plus intrépides et il vint avec l'onction, il vint avec le « ainsi dit le Seigneur ». Il savait de quoi il parlait, car l'onction de Dieu était sur lui pour leur apporter l'interprétation correcte de la parole de Dieu. Amen. Amos venait de la campagne, du désert, se dirigeant vers cette ville attrayante. Il n'y avait jamais été auparavant. Il était un jeune campagnard. Là, au fond, dans le désert, pendant qu'il était là en prière, Dieu le rencontra et lui parla de la méchanceté de cette prestigieuse nation à laquelle il appartenait. Et Samarie en était la capitale, l'une des capitales à l'époque durant le règne de Jéroboam. Et ce matin-là, lorsqu'il se tint là, au sommet de la colline, marchant dans ses vieux habits rudimentaires de campagne, peut-être avec de la poussière et de la boue aux pieds, il avait dormi là, nuit après nuit, dans ses vieux vêtements en haillons. Je ne sais pas, il n'y avait pas de baignoire en ces jours-là. Il se pourrait qu'il se soit passé quelques jours depuis qu'il avait pris un bain. Mais cela ne fait pas de mal à l'homme intérieur. Aujourd'hui, on accorde trop d'importance à l'extérieur, mais pas assez à l'intérieur. Nous sommes tellement préoccupés de savoir si nous nous baignons chaque jour, si nos cheveux sont bien peignés, et si nous avons changé d'habit et d'autres, mais alors nous laissons l'intérieur, dans n'importe quel état, porter les mêmes vieux vêtements de péché, empestant complètement l'âme avec des credos et des dogmes, sans jamais la sonder ni la laver dans la parole, dans l'eau de séparation avec les choses du monde. Amen. Et il se tenait ce matin-là, regardant du sommet de la colline, cette ville splendide, remplie de choses modernes dont il n'avait jamais rêvé l'existence. Israël avait atteint son apogée. Il avait conclu des alliances avec toutes les nations de ses alentours. Des femmes bien séduisantes étaient vêtues à la mode ainsi que les hommes. Ils étaient épris des plaisirs des courses, des Jeux olympiques et de tout ce qui avait lieu. Il n'est pas étonnant que ses yeux se soient rétrécis, non pas à cause de l'éclat de la ville, comme ferait un touriste qui viendrait à New York ou à Los Angeles, mais en voyant des femmes à moitié nues, les hommes se conduisant mal, et le péché. Certains de mes amis revenaient il y a quelques jours d'une tournée de pêche, juste au bas d'une école supérieure biblique, d'une grande et célèbre école supérieure biblique. Et il y avait, couchés là sur la route, dans les herbes sauvages, des jeunes filles à moitié nues et des jeunes garçons, probablement des étudiants de cette école, buvant et se conduisant mal. C'était horrible. Maintenant, une mauvaise conduite telle que celle-là excite l'appétit de plusieurs Américains qui se disent chrétiens. Lorsqu'ils jettent le regard sur Los Angeles, où je les ai observés dans l'avion, quand nous entrions dans Los Angeles, ils n'y avaient jamais été auparavant, ou dans Hollywood, ou en Floride, avec toutes leurs lampes à néon au-dessus des palmiers. Oh, elles se refaisaient une beauté et arrangeaient leur maquillage. Ils pensaient que c'était la chose la plus fascinante qu'ils aient jamais vue. Et en voyant ces femmes bien coiffées, bien habillées, marcher dans les rues, ils voulaient descendre là-bas et voir de quelle façon elles avaient pu porter leurs habits bien serrés, ou de quelle façon elles pouvaient faire des va-et-vient en se tortillant dans les rues, pensant que c'était quelque chose de merveilleux. Mais les yeux de ce prophète, oint par Dieu, ne se rétrécirent pas à cause de l'éclat comme ceux d'un touriste, mais plutôt à cause de la corruption morale d'un peuple qui était appelé à être béni de Dieu. Ses yeux ne regardèrent pas à l'éclat, ils ne se rétrécirent pas à cause de l'éclat, mais c'était à cause de la corruption et du manque de pudeur d'un peuple appelé à être l'élu de Dieu et qui se conduisait de cette façon-là. Rien d'étonnant qu'il ait dit. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Dieu a parlé, qui peut s'empêcher de prophétiser? Il vit la corruption, la dépravation, c'est à cela qu'il regardait. Quoi qu'il ait vu tout cela, cela ne l'attira pas, cela écœura son âme. Pourquoi? Il était un prophète, il savait ce que Dieu avait promis de bénir, ce qu'était une bénédiction, et comment les gens agissent avec la bénédiction. Et en son jour, le diable avait perverti la véritable bénédiction de ce qu'elle était en une dépravation morale, d'une bénédiction à ce qui plaît aux yeux et excite les appétits des inconvertis, loin de la volonté et de la voix de Dieu, ainsi que du mode de vie de Dieu. Comme c'est typique pour aujourd'hui, voir des prédicateurs qui peuvent se tenir à la chair et considérer le péché et la corruption de ce monde, et voir les gens faire et agir comme ils le font, et ensuite les bénir tout simplement parce qu'ils sont membres de leur église ou d'une dénomination, c'est au-delà de ce que mon âme peut comprendre. Quand Dieu parle, vous prophétisez. Si l'Esprit de Dieu saisit un vrai prophète de Dieu, il va crier avec la parole. Je ne veux pas être critique, mais qui peut rester tranquille? Qui peut supporter de voir une telle chose tout en confessant être un serviteur de Christ et ne pas la dénoncer? Peu m'importe ce qu'une dénomination dirait ou ce que n'importe quelle église dirait. C'est pourquoi je n'y appartiens pas. Il vous mettrait dehors d'un coup de pied pour commencer. Mais la parole de Dieu vient en premier lieu. Si vous êtes un messager, vous avez quelque chose à dire. Et si vous dites quelque chose de contraire à cette parole-ci, vous n'êtes pas un messager venant de Dieu. Vous êtes un messager de l'Alliance, d'une quelconque dénomination ou d'une quelconque théorie, mais un messager de Dieu a la parole de Dieu. Et notre ami ce matin, alors que nous le regardons, avait la parole de Dieu, parce qu'il était un vrai prophète du Seigneur. Maintenant, ils pensaient qu'ils en avaient l'interprétation, et ils pensaient, eh bien, assurément, voyez ce que nous faisons. Maintenant, ce qu'il en est, c'est que nous l'avons là, debout, au sommet de la colline ce matin, parcourant la ville du regard, secouant la tête, et regardant avec ses yeux qui se rétrécissaient, prenant ses manches pour essuyer de son visage la sueur ainsi que la poussière. Un soleil torride brillant sur sa tête chauve. Il frottait de ses mains sa barbe pendante. Il ne voyait pas l'éclat, il voyait le péché. Cela ne lui avait pas plu, ça l'avait écœuré. Pourquoi ne pouvait-il pas dire, vous voyez comment mon pays à moi, un Israélite, prospère? Comment dirait-il cela alors qu'il était un vrai prophète de Dieu, connaissant les résultats et ce qui en adviendrait? qu'ils se tiennent sur la colline aujourd'hui et qu'ils regardent vers le bas, qu'ils regardent à Jeffersonville les gens qui se disent chrétiens, qu'ils cherchent n'importe où en Amérique des gens qui se disent chrétiens. Ses yeux, oints par Dieu, se rétréciraient de nouveau, ses mains se tordraient dans sa barbe. Pourquoi ? Il ne voit pas l'éclat et la prospérité que le monde voit. Il voit l'éloignement d'avec Dieu. Il voit la corruption morale des gens. Il voit la rétrogradation de la nation. Il voit la pourriture dans l'Église. Comment pourrait-il faire autrement que rétrécir ses yeux et désirer y entrer pour mettre cela en pièces ? Qu'en serait-il si un évêque l'avait rencontré là-haut et lui avait dit « Eh bien, êtes-vous le prophète du Seigneur ? Maintenant, nous vous dirons ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez pas dire. » Pensez-vous qu'il l'aurait écouté ? Qu'en serait-il s'il lui avait dit « Venez maintenant vous joindre à notre organisation et nous vous aiderons dans votre campagne. » Pensez-vous qu'il l'aurait écouté ? Non ! Je ne pourrais pas m'imaginer cela pour un homme comme celui-là. Non, il était envoyé de Dieu. Il n'avait pas besoin de leur coopération. Il avait la parole de Dieu, l'onction de Dieu, le temps marqué par Dieu. Et il venait avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Et c'est cela le vrai prophète. C'est de cette manière qu'il voyage. Il ne voyage qu'avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Est-ce que cette ville resplendissante de Samarie, ce soi-disant Israël hautement instruit, ses prédicateurs et prêtres bien raffinés, recevraient ce petit homme inconnu? Sa grammaire était probablement très pauvre. Il était issu d'une pauvre famille du désert. Il partit de chez lui, appelé de Dieu, et alla dans le désert apprendre Dieu et sa parole, et devint un prophète. Le Seigneur l'a ainsi créé. Les prophètes naissent messagers pour un âge. Dieu, par sa préscience, connaît l'âge et il place son agent là pour dénoncer le péché. Cette éclatante ville pouvait-elle le recevoir ? Pensez-vous que ces femmes-là auraient fait attention à ce qu'il disait ? Pensez-vous que ces prêtres l'auraient écouté ? Bien sûr que non, monsieur. Il n'avait aucune lettre de recommandation d'une quelconque organisation. Il ne pouvait pas dire « les pharisiens m'ont envoyé ». Il ne pouvait pas non plus dire que les sadducéens l'avaient envoyé. Il n'était pas porteur d'une lettre de créance. Il n'avait pas de carte de membre d'un quelconque groupe de gens. Il n'avait personne pour préparer sa campagne à l'avance. Il n'y avait pas eu de réunion d'association de tous les pharisiens, ni de déjeuner ministériel qui aurait tout réuni afin d'organiser sa campagne, sachant qu'il viendrait. Il leur était inconnu. Il n'avait pas de carte de membre. Il n'avait pas de lettre de créance. Il n'avait pas de recommandation de la part d'un homme. Mais il avait le « ainsi » dit le Seigneur. Amen. C'est cela la manière d'un vrai prophète. Amen. Il avait le « ainsi dit le Seigneur ». S'il avait le « ainsi dit le Seigneur », c'est tout ce dont il avait besoin. C'est donc de loin différent de nos programmes d'ici, faits de main d'homme. S'il vient de cette manière-ci, il vient au nom d'une église. S'il vient de cette manière-là, il vient au nom du Seigneur. Ainsi un vrai prophète vient toujours par la voix du nom du Seigneur. Toujours il vient au nom du Seigneur. Maintenant, il ne pouvait pas présenter de carte de membre, mais il avait la parole de Dieu, et c'est ce que Dieu avait envoyé aux gens. En ce temps-là, les gens s'étaient formés des organisations. Ils avaient différentes sectes, et c'est ce que les gens avaient formé. Mais Amos n'en avait pas. Il n'avait que le « ainsi dit le Seigneur ». C'est ce qu'il avait. J'imagine qu'un matin, ces sacrificateurs avaient un matin de sabbat, ils avaient eu une petite prière, ainsi de suite, et aussi un petit service de consécration, et s'en retournaient. Ils parlaient de quelques faits au sujet du grand Moïse qui vécut un jour, et au sujet d'un autre grand homme qui vécut un autre jour. Mais, oh, les jours de ceux-là sont maintenant passés. Vous connaissez notre nouveau président, notre nouveau gouvernement, et notre tout ce que nous avons. Et ils parlaient de quelques faits de ce genre, et rentraient chez eux. Mais voici venir un homme qui ne se souciait pas de cela. Il vint avec le « ainsi dit le Seigneur ». Voyez-vous, voilà la manière d'un prophète. Pas de coopération, il savait ce qu'il allait affronter. Il savait que tout serait contre lui. Il savait qu'on le rejetterait, qu'on le refuserait. Mais il venait au nom du Seigneur. Jésus savait qu'il allait affronter le calvaire, mais il vint au nom du Seigneur. Voyez-vous, voilà la manière d'un vrai prophète. Il avait la parole du Seigneur pour la nation, mais la vraie parole du Seigneur était étrangère à ces gens. Or, il pensait qu'il l'avait. J'espère que ceci pénètre profondément. Il pensait être très pieux et très religieux. Néanmoins, la véritable parole de Dieu leur était quelque chose d'étranger. Et il en est de même aujourd'hui. La vraie parole de Dieu rendue manifeste est quelque chose d'étranger à beaucoup de pentecôtistes. La véritable interprétation de la parole, les véritables malheurs et détresses, les véritables bénédictions de Dieu sont quelque chose d'étranger à beaucoup de gens qui se disent de la sainteté, des membres d'église, des chrétiens. C'est quelque chose qui leur est étranger. Ils ne connaissent pas cela. Parlez-leur de cela. Ils n'ont jamais entendu parler d'une telle chose. Et pourtant, leurs organisations croissent et prospèrent, devenant de plus en plus grandes en membres. À tout moment, beaucoup d'organisations s'ajoutant chaque année. Ils pensaient que tout ce qui leur parvenait devait provenir de ces sectes. Certainement, ils ne l'avaient pas reçu. Ils ne le recevraient pas non plus aujourd'hui. Ils avaient longtemps oublié que Dieu était capable de susciter de vrais prophètes de Dieu à partir de ces pierres. Dieu est capable de faire cela d'un homme des bois. Il est capable de susciter de ces pierres un homme qui défendra sa parole et prophétisera la vérité en son nom, mettant la cognée à la racine de l'arbre et laissant tomber des débris. Peu m'importe si vous avez ou non la coopération, mais c'est la manière d'un vrai prophète. Certaines personnes pensent que c'était facile pour lui. Elles ne savent pas de quoi elles parlent. On ne l'a pas amené dans la ville à bord d'un chariot traîné par des chevaux au harnais garni de glands et les souverains sacrificateurs se tenant là, ayant sur la tête des choses impressionnantes, se prosternant devant lui, disant « L'honorable docteur, un tel approche ». Cela aurait été la mise en place d'une organisation. Et c'est comme lorsque vint le roi de tous. Il vint dans une étable, dans une crèche, une mangeoire de bœufs. Il ne vint point avec pompe et gloire, mais il vint dans l'humilité d'un bébé né dans une crèche. Amos n'est pas devenu la parole du Seigneur, mais il était la parole du Seigneur. Pour toute parole de Dieu, ce n'est pas la personne, mais c'est Dieu. Jésus dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. Ils lui dirent, toi tu es un homme et tu te fais Dieu. Il dit, alors si je ne fais pas les œuvres de Dieu, ne me croyez pas, mais si les œuvres elles-mêmes parlent, alors croyez les œuvres, si vous ne voulez pas me croire. Amos était la parole de Dieu qui marchait sur la route. Il y marchait rudement, pas à la manière du monde. Il vint dans la puissance de l'Esprit. C'est de cette manière que vient la parole de Dieu. Non pas selon le credo d'une organisation, non pas par quelque chose d'efféminé à la chair, mais elle vient dans la puissance de l'Esprit pour manifester Dieu à la nation et aux gens. Cela fait une différence. Combien c'est différent. Maintenant, on se rend compte, il y a longtemps qu'on a oublié qu'à partir des pierres, Dieu est capable de susciter de vrais prophètes. Ils n'avaient pas, leur organisation n'avait pas à susciter un vrai prophète, parce qu'ils ne pouvaient peut-être pas faire cela, car si cela était possible, ce serait un prophète d'une organisation. Mais c'est Dieu qui suscite, Dieu qui prend ce qu'il veut prendre. D'habitude, il prend rien du tout pour faire son œuvre. Cela montre que c'est Dieu. Si un homme est tout enflé d'orgueil et pense qu'il vaut quelque chose, alors Dieu ne peut pas l'utiliser, car il a une haute opinion de lui-même. Voilà ce qui ne va pas avec l'Église chrétienne d'aujourd'hui. Ils pensent qu'ils connaissent quelque chose. La Bible déclare que lorsque quelqu'un pense qu'il connaît quelque chose, il ne connaît rien de ce qu'il devrait connaître. La difficulté aujourd'hui est que nous sommes pleins de nous-mêmes. Nous avons tant d'hypocrisie, tant d'instruction, tant de religion, et nous ne savons rien de ce qui concerne le salut par la parole de Dieu. C'est ce qui est pitoyable. Oui, ils avaient oublié que de ces pierres, Dieu était capable de susciter des enfants à Abraham, ou de susciter de vrais prophètes de la parole. Il ne faut pas qu'ils proviennent d'une certaine école. C'est Dieu qui leur donne l'instruction. Ils n'ont pas besoin d'avoir 4 diplômes d'université, ils n'ont pas besoin d'avoir des licences en lettres ou de diplômes de doctorat, et ainsi de suite. Ils n'en sont pas obligés. Dieu prend tout ce qu'il veut prendre et place sa parole dedans. Comment le fait-il? il le manifeste et le prouve. Il ne pouvait pas dire de quel séminaire Jésus était sorti. Il n'en avait aucun. De quelle école est-il sorti? Il n'en avait aucune. Eh bien, qu'avait-il? Il avait Dieu et il était la parole. Il ne pouvait pas désigner une quelconque école. Et Dieu n'a jamais suscité un homme à partir d'une école. Remontez le cours de l'histoire et cherchez où il ne l'est jamais fait. Il ne le fait pas. Il prend de quelque part quelque chose d'insignifiant pour lequel il n'y a pas d'espoir, et alors il l'amène et il met sa parole et se manifeste. C'est ce qu'il était en train de faire ici dans Amos. Très bien. Maintenant, la parole d'Amos fut confirmée par Dieu en ce jour-là, dans leur jour. Dieu confirma la parole d'Amos comme étant qu'il était, il avait la parole du Seigneur. Et s'il venait chez nous en cet instant même, pensez-vous que notre nation et notre peuple recevraient un homme comme ça? Pensez-vous que les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes et les catholiques recevraient Amos? Non, monsieur, non, ils ne le feraient certainement pas. Transportons-le juste un moment et amenons-le ici pour une minute et voyons si on le recevrait ou pas. Voyons simplement si aujourd'hui nos églises le recevraient ou pas. La première chose qu'il ferait, c'est qu'il ne serait pas d'accord avec chaque organisation parce que chacune est contraire à la parole. Oui, monsieur, il condamnerait tout notre système, c'est vrai, chaque doctrine, chaque credo, chaque dénomination. Il condamnerait la chose tout entière. Je m'imagine simplement, je peux voir certains de ces anciens pentecôtistes dire, eh bien, gloire à Dieu, nous ne voudrions pas avoir cet homme dans notre ville. Et pensez-vous que les presbytériens et les baptistes feraient, cet ignare, nous n'en voulons pas sur notre territoire, il n'est rien qu'un excentrique. Il signerait un document pour le mettre en prison s'il le pouvait, afin de le faire disparaître des rues. Mais pensez-vous que vous pourriez le retenir là-bas? Oh non, vous ne pouvez pas enfermer la parole de Dieu dans une cage. Non, non, elle en sortira de toute façon. Les portes de la prison s'ouvrirent une nuit alors qu'on essayait de l'enfermer dans une cage. Une lumière entra et le délivra. Non, il ne serait certainement pas d'accord avec notre organisation. Très bien, que commencerait-il à faire? À mettre cela en pièces. Pourquoi? Il est un serviteur de Dieu. Il irait droit à la fondation pour commencer sa campagne. Il retournerait tout droit à cela, en arracherait chaque credo et rentrerait à la fondation. Qu'est-ce que la fondation? La parole de Dieu. C'est vrai, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ainsi, il mettrait en pièce chaque dénomination, chaque credo, chaque doctrine, et jetterait cela de côté. Il ferait sauter cela pour l'éternité. Pensez-vous que les pentecôtistes le recevraient? Non, monsieur. Les baptistes, les presbytériens? Non, monsieur. Les nazaréens, les pèlerins de la sainteté? Ils le haïraient, certainement. Pensez-vous qu'ils iraient l'accueillir dans une limousine pour le conduire dans la ville? Ils prieraient que le soleil le grille là-haut. Ils érigeraient une barricade pour l'empêcher d'entrer dans la ville. Eh bien, il y aurait davantage de réunions des ministres partout dans la ville, telles que vous n'en avez jamais vu de votre vie. Gardez ce détraqué hors de la ville. Et pourtant, il avait le « ainsi dit le Seigneur ». Voyez-vous, voilà la manière d'un vrai prophète. Il serait méprisé. Certainement, il irait tout droit à la fondation pour sa campagne. Il n'aurait pas besoin de... Il ne dirait pas, maintenant je désire que vous tous, méthodistes, veniez m'aider en ce moment. Je veux que vous les baptistes, je veux que vous tous ici, vous tous, pentecôtistes, vous qui prétendez être le dernier groupe que Dieu va appeler, je veux que vous veniez tous auprès de moi et je veux que vous souteniez ma campagne. Comment baptisez-vous? Quelle est l'évidence initiale du Saint-Esprit? Ces questions lui seraient lancées en pleine figure. Et quand il répondrait avec la vérité biblique, on le repousserait. Mais c'est cela, la manière d'un vrai prophète. Il doit affronter tout cela, voyez-vous? Certainement, nous ne l'aurions pas reçu. Non, monsieur. Nous n'aurions accepté aucune de ces campagnes ici, dans notre pays. Bien sûr que non. Eh bien, nous ne l'aurions pas reçu. Non, monsieur. Pourtant, il serait venu ramener l'Église à la parole, car c'est cela le fondement. Et tout autre fondement sur lequel un homme se tient n'est que du sable mouvant. C'est sur ce seul fondement que Dieu bâtit son Église sur la doctrine des apôtres. Comme je disais l'autre jour, il y avait quelqu'un qui parlait du purgatoire. Il se référait à plusieurs saints tels que Saint François et Sainte Cécile, et que cette dernière prierait pour certaines personnes pour les faire sortir du purgatoire. Et il citait des autorités comme celle-là. C'est une autorité non scripturaire. Ce sont des gens qui n'ont pas d'autorité. Les apôtres avaient l'autorité scripturaire. Et quant à moi, si c'est contraire à ce qu'ils ont dit, alors c'est un mensonge. Je crois vraiment à un purgatoire, mais je crois que c'est maintenant même. Vous purgez votre propre âme. Purgatoire signifie purger. Lorsque vous voyez que vous avez fait quelque chose de faux, retirez-vous quelque part et purifiez-vous-en par la confession, en pleurant, en jeûnant et en priant. Quelqu'un s'est même moqué de moi lorsque le Seigneur est venu ici il n'y a pas longtemps et m'a donné une vision. En effet, j'avais toujours voulu voir ce serpent être lié. Je m'étais toujours demandé comment, quand serait-il s'il fallait que je m'en aille comme cela, alors que cela est tout ce que j'ai désiré toute ma vie. Alors j'ai commencé à jeûner et à prier. Cet homme m'a dit, « Pourquoi as-tu fait cela ?» J'ai dit, « Là-bas, il avait dit que je n'étais pas assez sincère. Je devais venir maintenant pour me purger. N'attendez pas de mourir pour qu'un prêtre essaye de vous purger. Purgez vos âmes !» Mais vous voyez, ils ont tiré cela de la parole qui fait autorité et l'ont placé sous l'autorité d'un dogme établi par les hommes pour faire entrer de l'argent dans l'Église parce qu'ils regardent aux choses du monde, à l'Église du monde, aux grandes puissances du monde, aux puissances politiques. Mais Dieu regarde à sa parole. Et toute parole contraire à la parole de Dieu est fausse. Pour moi, c'est la parole ou rien. Oui, monsieur, oui, monsieur. Il irait droit au fondement. Il mettrait la chose en pièces, il le ferait. Si Amos était ici aujourd'hui, il ne pourrait rien faire d'autre. Il ne pourrait rien faire d'autre, car rappelez-vous, il est un vrai prophète de Dieu à qui vient la parole. Il ne pourrait rien faire d'autre que retourner à la parole. Peu importe si tous les pentecôtistes du pays se réunissaient et disaient, « Monsieur Amos, nous croyons que tu es un prophète, mais tu es en dehors de la parole. Nous voulons te redresser. » Il resterait avec la parole. Il n'y a rien d'autre qu'il ferait parce qu'il était prophète. Il n'avait pas besoin de leur coopération. Il a un message à donner. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et il va prêcher la parole. Et il va la prêcher exactement comme elle doit être dans la Bible. Et par conséquent, nous le repousserions. C'est vrai. Peu importe ce que cela serait, la parole de Dieu, l'interprétation de la parole, la bonne interprétation vient du prophète. Israël sortait toujours de la ligne et Dieu leur envoyait un prophète avec des signes et des prodiges pour interpréter cette parole. Mais comment le reconnaissait-il? Il avait dit, si ce prophète parle et que cela s'accomplit, alors cela est vrai. Il confirmait ses prophètes parce qu'ils avaient raison. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. À ceux-ci, vous les reconnaîtrez, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Alors comment peut-on prétendre être un prophète du Seigneur et renier la parole même de Dieu? Comment un homme peut-il baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans des titres et renier le nom même de Jésus-Christ alors qu'il n'y a pas une seule écriture dans la Bible qui soutient leur théorie? Il se peut que je sois dur et critique, mais c'est le moment de le devenir. C'est vrai. Comment les gens peuvent-ils prétendre être aujourd'hui des chrétiens et courir après toutes ces choses? Et les femmes ont des cheveux coupés, portent des shorts, fument des cigarettes, courent après des projections cinématographiques, n'importe quel genre de vieux film, et se conduisent mal. Et me dire que c'est cela le Saint-Esprit, ne me dites jamais cela. Vous écœurez Dieu si une telle chose peut se faire. Je suis sûr que vous comprenez, vous vous appelez ainsi, comment peut-il y avoir pareille chose? C'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Amen. Il attaquerait violemment et condamnerait chaque femme aux cheveux coupés. Comment pourrait-il agir autrement? Il est un prophète, et c'est cela la parole. Il dirait « espèce de Jézabel ». Il serait dur à leur égard. Pourquoi? Il est un prophète. Il devait rester avec la parole. C'est vrai. Pensez-vous qu'elles arrêteraient? Non, monsieur. Elles diraient « ce fanatique, il est aussi mauvais que le vieux Paul dans la Bible, un misogyne. Oh, vous bande d'imposteurs soi-disant chrétiens !» Peu importe combien vous essayez de vivre dans la sainteté, cela n'a rien à voir. Aussi longtemps que vous reniez la parole de Dieu et que vous ne vous mettez pas en ordre avec elle, vous êtes un pécheur, un incrédule. C'est ce qu'il dirait. Il ne la mettrait pas, il mettrait la cognée juste à la racine de l'arbre. Il n'épargnerait rien, il est un prophète, et c'est cela la manière d'un vrai prophète. Ils s'en tiennent à cette parole, sans tenir compte de qui que ce soit. Qu'il s'agisse de leur propre mère ou de leur propre papa, cela ne fait aucune différence. Jésus l'avait fait. Il ne l'appelait même pas mère, elle ne l'était pas. Lui était Dieu, Dieu n'a pas de mère. S'il en avait une, qui serait alors son père? Il les attaquerait violemment et les condamnerait. Il condamnerait chaque dénomination, parce qu'il n'y a aucune d'elles qui soit bâtie sur la parole. Je ne puis en trouver aucune. Et aussitôt qu'ils s'organisent en dénomination, ils deviennent à l'instant même opposés à la parole. Ainsi comment un prophète peut-il bénir ce que la parole condamne? Quoi qu'il ne veuille pas le faire, pour ne pas offenser son frère, il doit cependant le faire parce qu'il est un prophète. Et il est la représentation de la vraie parole de Dieu, et il ne s'en éloigne pas du tout, en aucune manière, précepte sur précepte et ligne sur ligne. Voyez-vous ce que je veux dire? La manière d'un vrai prophète. Venir à moi et dire, Seigneur, je souhaite que tu fasses de moi un prophète. Il ne fait pas cela. Non, il ne le fait pas. Il condamnerait chaque acte immoral des églises. Ces parties des jeux de bingo ainsi que toutes ces choses qu'ils ont, les parties de cartes, les soupers de soupe, il condamnerait chacune d'elles. Il les attaquerait violemment et les enverrait en enfer d'où elles viennent. Pensez-vous que vous l'auriez reçu? Non, l'Église d'aujourd'hui ne le recevrait pas. La Pentecôte le recevrait-elle quand il y entrerait et dirait, « Vous, bande de Jézabel aux cheveux coupés, ne savez-vous pas ce que signifie « Ainsi dit le Seigneur » Vous vous présentez ici en une petite robe qui vous sert au corps. Ne savez-vous pas que chaque jour vous êtes coupable d'adultère avec des centaines d'hommes ?» Voilà ce qu'il dirait. Vous diriez, « Eh bien, ce vieil excentrique, ce vieil homme grisonnant et chauve, chassez-le de cette chair. Allons voir le conseil d'administrateur. Diacre, faites-le sortir d'ici. Nous allons. Vous, bande d'hypocrites misérables. » C'est vrai, Amos le dirait tout haut. Et alors vous, vous dites, nous sommes, nous appartenons à ce groupe-ci, nous appartenons à ce groupe-là. Vous êtes de votre père le diable, car il est celui qui renie la parole. Vous dites, j'ai parlé en langue. Et ensuite, vous vous coupez les cheveux? Gloire à Dieu, alléluia. La Bible dit que c'est une chose vulgaire, vulgaire pour une femme de prier en ayant des cheveux coupés comme cela. Ensuite, vous vous dites chrétienne, honte à vous, retirez-vous en rampant quelque part dans un coin et mettez-vous en ordre avec Dieu. Vous portez ces vieux petits vêtements courts et vous sortez dans une cour et vous vous étalez alors que vous savez bel et bien que vous commettez adultère avec une centaine d'hommes chaque jour. Il a dit, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis adultère avec elle. C'est elle qui s'est présentée. Et toi, tu l'as fait dans ton, que tu es, vous êtes mort aux choses du monde. Vous en êtes ressuscité, comme je l'ai dit au début. Vous détournez votre tête de honte. Que vos yeux se rétrécissent devant une chose aussi horrible que le péché, au lieu de regarder les femmes pour les convoiter. Vous, hommes, qui feriez pareille chose, et vous vous dites chrétien, c'est ce qu'il vous dirait. J'essaie de prendre ces paroles ce matin. C'est ce que seraient ces paroles. Car il, rappelez-vous qu'il est un vrai prophète. Il devrait rester avec cette parole. Et je ne fais que citer ces paroles, c'est tout. Parce que si vous l'ameniez ici, il serait la parole. Ainsi, voici la parole elle-même. Vous pouvez ne pas recevoir l'homme, mais vous avez là sa parole, parce qu'il aurait la parole du Seigneur. Chaque doctrine élaborée par l'homme, telle que le baptême dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, lui, il la condamnerait. Il rejetterait cette chose complètement pour l'éternité. Il la condamnerait si bien qu'il n'en resterait rien. Oui, monsieur, combien d'entre vous, combien dans l'Église le recevraient sur cette base-là ce matin? Ainsi, eux, ce groupe du nom de Jésus, ils diraient, « Oh, nous l'aurions reçu sur cette base-là. » Et quant à votre organisation, ils vous condamneraient, et vous, et cela. C'est vrai, vos femmes ont les cheveux coupés, et vous tolérez cela. C'est vrai, vos hommes, leur façon de faire et d'agir. C'est vrai. Beaucoup de gens disent que c'est bien d'être un prophète. C'est vrai, si vous êtes prêt à remettre au monde toutes choses pour rester avec Dieu et sa parole. Non, nous ne voudrions en aucun cas le recevoir. Nos dénominations d'aujourd'hui, nous voudrions certainement n'avoir rien à faire avec lui. Écoutez-le condamner cela. Il dit, le Dieu même en qui vous prétendez croire vous détruira. Qu'en adviendra-t-il? Le Dieu même en qui les pentecôtistes croient, à cause de ces actes d'immoralité et autres qu'ils sont en train de poser, qu'ils autorisent, ce même Dieu amènera le jugement sur ces organisations. Voilà exactement ce que leur a dit Amos. Oh, dirent-ils, nous avons Abraham, nous avons ceci, nous avons la loi, nous avons des prêtres, nous avons des prophètes. Oh, frères, ses yeux se rétrécirent pendant qu'il les regardait et faisaient retentir cette parole en eux. Oui, monsieur, assurément, ils ne voudraient pas le recevoir. Non, monsieur, il dit, on les détruira et eux et vos doctrines humaines. C'est ce qu'il vous dirait aujourd'hui. Il dirait la même chose qu'il a dite alors. Il avait dit, le Dieu même pour qui vous construisez des églises, dépensant peut-être des millions de dollars, les sanctuaires même que vous construisez pour Jéhovah, que vous prétendez aimer, ce Dieu-là même vous détruira parce que vous rejetez sa parole. Ainsi en est-il aujourd'hui. Le Dieu même que l'Amérique prétend servir exercera le jugement sur la nation et la détruira. Je veux que cela pénètre si profondément que vous n'aurez jamais à vous en échapper. Celui-là même que vous prétendez aimer, avec vos propres dogmes humains, votre vie morale, la corruption qui est en vous, vous qui êtes éloigné de la parole de Dieu, il vous détruira un jour. C'est ainsi dit le Seigneur. Il ne reste rien d'autre pour eux. On s'aligne sur la parole, on leur prêche l'évangile, on parcourt la nation, on leur dit la vérité. Les ministres font des histoires, poussent des cris, font des scènes, l'homme est condamné, les organisations vous rejettent, les femmes secouent la tête, et pour rien au monde, elles ne voudraient laisser pousser les cheveux. Elles s'habillent exactement de la même façon année après année. C'est comme verser de l'eau sur le dos d'un canard. Et puis, vous prétendez aimer Dieu, a-t-il dit? Jésus a dit, vous avez pris vos traditions et avez rendu les commandements de Dieu sans effet. C'est cela la manière d'un vrai prophète. Voyez-vous, ce n'est pas une voie facile. Ce n'est pas ce que chacun pense que cela pourrait être. Sautiller, crier, tout le monde vous donne des tapes sur l'épaule. Cela est alors un signe que vous n'êtes pas un vrai prophète. C'est l'un des signes même que vous ne possédez pas ce dont vous parlez. Quand lui ont-ils déjà passé la main dans le dos sans profit? Eh bien, ils se retourneraient et les condamneraient, c'est vrai. Ils ne pouvaient pas passer la main dans le dos d'Amos. Ils ne pouvaient pas passer la main dans le dos d'Élie. Il n'a pas toléré ces choses-là. Non, monsieur, il leur a dit la vérité de Dieu. Et si le ciel est si grand et que c'est là que nous allons, alors si nous ne pouvons pas nous conformer aux toutes petites choses, comment allons-nous nous conformer à l'esprit là-bas? Amen. Vous devez vous aligner sur la parole. Amen. Et c'est cela la manière d'un vrai prophète. Quoi qu'en le disant cela, le déchire, il doit mettre une nation en pièces avec cela, c'est vrai. Mais c'est ainsi. Il condamnerait cela. Oh là là, vous savez ce qu'il leur a dit? Le tumulte, si vous le remarquez ici. Il a dit, ce n'est pas dans votre gouvernement, c'est en vous. Voilà ce qu'il a dit. Des tumultes dans l'église, votre apparence de piété, voilà ce qui a causé des troubles. La raison pour laquelle le communisme est en train de balayer le pays aujourd'hui, ce n'est pas à cause du communisme, c'est à cause de l'église, c'est à cause des gens. Aujourd'hui, ils se nomment chrétiens, ils chantent comme des anges, avec des voix exercées, et parlent avec une telle éloquence qu'on dirait qu'ils sont des archanges. Mais ils doutent de la parole de Dieu comme des démons. C'est vrai. Ils chantent comme des archanges, s'habillent comme des je ne sais quoi, et renient la parole de Dieu. Un homme, un prédicateur, qui se tient là à la chair, qu'on appelle docteur, révérend, posez-lui la question. La Bible a-t-elle parlé du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ ou du Père, Fils et Saint-Esprit? Il vous rira au nez et il prendra Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, vous vous dites un fils de Dieu? Les femmes savent que la Bible les condamne quand elles font certaines choses, comme se couper les cheveux, agir comme le monde, porter des vêtements immoraux et des choses semblables. Mais malgré tout, elles le font sans cesse et parlent en langue, sautillent, crient, ont des sociétés de vieilles dames, des cercles de couturières. Elles envoient des missionnaires dans le champ. Devant Dieu, c'est devenu une puanteur. Et ainsi dit le Seigneur, il détruira la chose entière, il le fera. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est cela la manière d'un vrai prophète, la faire retentir et la proclamer, qu'elle blesse ou pas. Jean était un vrai prophète. Il a dit, la cognée mise à la racine de l'arbre, c'est bien là leur manière. Bien sûr, le problème chez elles, c'est chanter comme des anges, danser ici comme des démons, des danses, des histoires, des jeux de cartes, des parties de course. Les pentecôtistes vont dans les lieux de distraction, ils remplissent les salles de cinéma. Partout où il y a n'importe quelle sorte de vieux jeu ou toute autre chose, ils y vont directement aux courses et à tout le reste, et ils se disent chrétiens. Ils sautent, crient, parlent en langue, prennent part au lavage des pieds, à la communion. Eh bien, c'est comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, a dit le prophète. Ils font de même. Si cette chose-là était du monde et qu'elle a dû être chassée de vous, pourquoi y retourneriez-vous de nouveau? Bien, elles se tortillent dans les rues, elles appellent cela rock and roll, elles se coupent les cheveux, elles portent des shorts, oh là là, elles se disent chrétiennes. Pourriez-vous jamais? Non, je ferais mieux de ne pas le dire. Voilà pourquoi je les condamne. S'il me faut rester avec cette parole, si cette parole vient à moi, je reste avec cette parole. C'est ce qui vient à moi, la parole. On condamne cela, on prétend être conduit par le Saint-Esprit et on fait de telles choses. Pouvez-vous imaginer une femme conduite par le Saint-Esprit se laisser couper les cheveux alors que ce même Saint-Esprit condamne cela? Alors quel genre de personne est le Saint-Esprit? Pouvez-vous vous imaginer cela? Pouvez-vous vous imaginer un prédicateur se tenant à la chair et quelqu'un le défie de lui montrer un seul endroit où quelqu'un ait déjà été baptisé en utilisant les titres de Père, Fils et Saint-Esprit et qui vous rit au nez et vous traite de fanatique parce que vous baptisez au nom de Jésus-Christ et dit qu'il est conduit par l'Esprit et il dit qu'il a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit renierait-il sa propre parole? Non, monsieur, voyez-vous? J'espère que vous comprenez cela. Maintenant, j'ignore combien de temps la prochaine explosion peut m'atteindre, mais avant cela, je me tiendrai juste là avec la parole. Je me tiendrai juste à côté de cette parole quand je vous rencontrerai là-bas au jugement. C'est ce que je crois être la vérité. Non, vous ne pouvez pas faire ces choses comme celle-là et ensuite avoir le Saint-Esprit. Je suis allé à... Une fois, la femme d'un ministre se tenait là, portant une robe. Et c'était horrible à voir. Vous dites, vous n'en avez pas le droit. J'en ai le droit. C'est la parole. Prêche-la dans son entièreté. Beaucoup de prédicateurs efféminés vous évitent ces choses parce qu'ils n'ont pas l'audace. Peut-être qu'ils n'ont même pas été appelés à prêcher pour commencer. Amen. Mais un vrai serviteur de Dieu restera juste avec cette parole. C'est vrai. La femme du ministre, du prédicateur, se tenait là, avec une robe lui serrant le corps, portant des boucles d'oreilles qui pendaient, maquillée, des cheveux coupés courts, alors que Dieu condamne tout cela comme étant de la souillure, et puis vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Je prêchais ici à Phoenix, il n'y a pas longtemps, sur quelque chose comme cela, et la femme d'un ministre était assise à l'estrade, avec des cheveux tout frisés, coupés courts, comme ceux d'un garçon. Elle portait une robe dans laquelle elle ne savait même pas empêcher ses jupons de se faire remarquer. Ça n'allait pas au-delà de ses genoux, ça s'arrêtait à quelques 10 ou 13 centimètres au-dessus des genoux. Elle était là, sautillant, conduisant les cantiques. J'ai condamné cela aussi durement que je le pouvais. Bien sûr, il ne m'invitera plus, je ne m'y attends pas. De toute façon, il connaît le bien et le mal. Quand je me tiendrai au jugement, je ne serai plus responsable de cela. Puis on s'en ira dire, un homme, un soi-disant enseignant, je ne dis pas qu'il ne l'est pas, a fait une remarque l'autre jour en présence de quelques-uns de mes amis dans une certaine ville où j'avais été. Vous connaissez le frère. Alors ce frère est entré et a dit, eh bien il a dit, nous avions reçu frère Branham ici une fois, dans une certaine ville à l'ouest. Et cet homme a dit, oh frère Branham est un brave homme. voyez, il se gardait bien de dire quoi que ce soit sur ma personne. Il a dit, frère Branham, mais n'écoutez pas ces bandes, parce que vous serez embrouillés. Et il s'est fait qu'un de mes amis, se trouvant là, a dit, juste un instant, monsieur, moi, j'étais dans la confusion jusqu'au moment où j'ai écouté les bandes. Et voilà la différence. Il a dit, je ne pouvais pas comprendre comment un Dieu saint pouvait supporter des choses semblables comme celles que vous faites tous. Amen. Il n'y a pas longtemps, la même personne était avec une autre à un certain endroit. Elle a dit, frère Branham est un prophète, il peut discerner les choses, etc. Comme, mais dit-il, maintenant n'écoutez pas sa doctrine car il est dans l'erreur. C'est de la folie, une expression grossière comme celle-là. Ne savez-vous pas que je ne suis pas prophète, mais si la parole de Dieu est vraie, elle vient au prophète. La parole du Seigneur venait au prophète, ce sont eux qui interprétaient la parole. Vous voyez donc que ça n'a même pas de sens. C'est simplement pour se cacher derrière une petite dénomination. Un de ces jours, elles vont se briser, se fondre et périr en enfer, mais la parole de Dieu demeurera pour toujours. Je fonde pour toujours mes espoirs sur ce rocher, sur la parole du Seigneur. Et que toute autre chose sombre, que je perde chaque ami, n'importe quoi, mon amitié est en Christ. Amen. Mes espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que les paroles de justice de Jésus. Lorsque tout ce qui environne ma personne cède, il est alors tout mon espoir et mon soutien. Ce fusil a explosé l'autre jour et j'ai vu, je me croyais mort, je me sentais en paix, et j'ai regardé tout autour et je me suis dit, eh bien ça y est, quel bien m'aurait alors fait une dénomination? Quel bien m'aurait alors fait une organisation? Je devrais me tenir là, au jugement de feu de Dieu, pour être jugé par cette parole. Bien que je doive blesser, courber beaucoup de gens, leur faire changer de direction et les déchirer, j'ai toutefois l'espoir d'extraire le véritable noyau par la parole de Dieu et d'y bâtir une âme pour l'éternité. C'est vrai, que Dieu la prenne dans ses mains et en fasse un enfant obéissant. Comment un homme conduit par le Saint-Esprit pourrait-il faire pareille chose? Ou une femme qui a le Saint-Esprit, comment pourrait-elle faire pareille chose? Non, lui est saint, et si sa vie est en vous, vous l'êtes aussi. Vous serez exactement comme lui. Israël, comme nous, pensait que parce qu'ils prospéraient dans leurs alliances avec les autres, Dieu était d'accord avec cela. Maintenant, vous savez, c'est ce que nous pensons aujourd'hui. Il y a quelques jours, je parlais à certaines personnes ici dans un hôtel, il n'y a pas longtemps, c'était de grands hommes dans le domaine religieux, et ils m'ont dit, Dieu montre qu'il est avec nous. Tenez, frère Branham, l'année passée, nous avons augmenté en nombre, je ne me rappelle plus de combien, des centaines, quelque chose comme cela. J'ai répondu, ça, ce n'est pas du tout de l'approbation. C'est juste, l'année passée, la prostitution a augmenté d'environ 30%. Est-ce que ça prouve que Dieu était d'accord avec la prostitution? Cet argument n'est pas valable. Non, vous ne pouvez pas le faire. Non, monsieur, Dieu s'en tient à sa parole. N'importe quel autre homme s'en tiendra à sa parole s'il est honnête. Très bien. Il pensait que le fait d'avoir une alliance. Maintenant, ici, nous allons nous pencher un instant sur les affaires du gouvernement. Notre nation a rejeté la parole de Dieu, juste comme l'avait fait Israël. Ils ont rejeté la parole de Dieu, et leur peuple, leurs prêtres et prophètes, etc., leur prophétisent du bien. Et ils, que pouvons-nous faire, sinon prophétiser du mal, parce que c'est contraire à la parole. Elle est condamnée, notre grande et bien-aimée nation, fondée sur l'expérience de nos aïeux. Retournez donc à ce qu'ils avaient. Certainement Israël était une grande nation. Considérez leurs aïeux, mais Dieu ne les a pas épargnés. Ce vieux prophète chauve leur adressait la parole, et cela arrivait exactement comme il le disait. Lisez ici votre histoire pour voir si ce n'est pas juste. Cela s'est passé exactement comme il l'avait dit. Et il les a condamnés, bien qu'ils se soient tenus là, ces saints prêtres dans leurs habits sacrés, aspergeant ceci et ne voulant pas bouger la main de ce côté ou de l'autre, parce qu'il y avait quelque chose de ce côté, soit la tradition, soit autre chose. Jésus a dit, vous avez pour père le diable, et ce sont ses œuvres que vous voulez faire. Et ils l'ont pris, ils l'ont condamné, ils l'ont pendu au bois, puis l'ont tué. C'est tout à fait exactement vrai. Dieu l'a ressuscité. Oui, monsieur. Non, il ne pourrait pas, nous ne pourrions pas croire à Amos aujourd'hui, pas du tout. Et aujourd'hui, nous avons fait une alliance. Nous avons ce que nous appelons aujourd'hui. Nous pensons que Dieu est d'accord parce que nos organisations augmentent en nombre et que tout marche comme il faut. Nous pensons que Dieu est d'accord avec ça. Vous savez, les protestants, ils ont augmenté, je crois, d'environ 2 ou 3 millions. Et les catholiques ont augmenté de plusieurs millions, voyez-vous. Ils pensent que Dieu est d'accord qu'ils soient catholiques. Les protestants pensent que Dieu est d'accord qu'ils soient protestants. C'est un non-sens. C'est de la chair à canon. C'est de la cendre atomique. C'est la colère de Dieu qui monte pour exploser. C'est tout à fait vrai. Vous, écoutez-moi, je vais vous annoncer la parole du Seigneur. Amen. Regardez-nous, regardez le monde pour regarder notre nation. Nous nous sommes joints aux Nations Unies. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une bande d'impies. Et nous avons l'audace de ne même pas permettre qu'une prière soit offerte avant l'ouverture de nos sessions. N'ai-je pas lu ici tout à l'heure? Comment deux hommes peuvent-ils marcher sans en être convenus? Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Comment deux hommes peuvent-ils marcher sans s'être mis d'accord? Tandis que nous avons des mahométans, des bouddhistes, des athées, des impies, des égoïstes, et tout là-dedans. Vous pensez que Dieu pourrait être dans une chose comme celle-là? Eh bien, vous dites, c'est bien, nous sommes leurs alliés. Nous avons toute la protection occidentale. Ils avaient la protection de toutes les nations qui les entouraient, mais ce prophète a dit, Dieu vous détruira. Le Dieu même que vous servez vous détruira à cause de votre folie. Il dirait la même chose ce matin. Amen. Il aurait vociféré de la Maison Blanche jusqu'à la pauvre ferme. Il l'aurait fait certainement. Il les aurait condamnés avec la parole de Dieu. Il l'aurait fait certainement. C'est cela la manière d'un vrai prophète. Amen. Observez, nous les églises. Oh, nous sommes la grande et sainte église catholique romaine. La Bible en parle comme étant une prostituée. Nous sommes les patriarches issus des pères, les églises protestantes unies, toutes ensemble et appelées, cela est appelé le Conseil mondial des églises, les prostituées de la prostituée, dit la Bible. C'est exactement ce qu'elle dit. Et pourtant, nous pensons que, et maintenant, toutes les églises se rassemblent. Monsieur Collins, un ami à moi, un frère de Californie, de là en Arizona, vous êtes Elmer, j'ai dit, eh bien, je pense que vous fréquentez une bonne petite église méthodiste. Il a dit, j'en suis sorti quand ils se sont joints à ce conseil des églises là-bas. J'ai dit, que Dieu vous bénisse, vous êtes près du royaume, frère. Oui, monsieur, un dogme. On compte sur une association avec les hommes et avec leur doctrine humaine et on abandonne la parole de Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un prophète pour faire retentir cette parole là-dedans. Amen. C'est exact, oui. Ils se rassurent entre eux. Oh, nous nous sommes joints, nous, pentecôtistes, bien sûr, nous nous sommes joints au Conseil mondial des églises, parce que là-dedans, nous avons la communion. Nous allons les gagner. C'est comme une femme qui va dans un bistrot se saouler avec son mari pour le gagner à Dieu. Ou plutôt un mari qui, en ces jours-ci, irait avec sa femme se saouler dans un bistrot en vue de la gagner à Dieu. C'est absurde. Restez loin du terrain du diable. Lorsque quelque chose renie cette parole, je m'y oppose. Et cela fait que je m'oppose à chaque organisation parce qu'elle s'oppose à la parole. Cela devrait amener chaque croyant à se sentir ainsi. Eh bien, disent-ils, mais rappelez-vous, nous avons... Je dis, j'ai une grande coupure de journal que quelqu'un m'a envoyé depuis l'Arizona au sujet du patriarche untel qui a dit l'autre jour, le pape Jean XXII, peu importe comment on l'appelle, est un brave homme. Il est le seul homme qui ait toujours parlé de l'unification des églises, des catholiques et des protestants ensemble. Il a dit, il se pourrait que cela n'arrive pas de nos jours, mais dans les 15 ou 20 prochaines années, ça se fera. Je me suis dit, mon ami, en tant que patriarche, vous êtes en train de prophétiser sans le savoir. Il est plus tard que nous ne le pensons. L'homme qui me l'a écrit l'a mentionné en haut de la page. Il est plus tard que nous ne le pensons. Il écoute aussi les bandes. Oui, monsieur, il a dit, il est plus tard que nous ne le pensons. Il a dit, Frère Branham, ne l'avez-vous pas dit il y a des années ? J'ai dit, bien sûr. Oui, monsieur, cela s'accomplit, car c'est la parole du Seigneur. Elle doit s'accomplir, bien sûr. Oui, ils disent, eh bien, ce saint patriarche, ne pensez-vous pas qu'il devait en savoir plus que cela ? Non, monsieur, s'il renie la parole de Dieu et y jette un regard comme cela, il ne peut pas. Peu m'importe combien de papes, de prophètes, et quoi que vous ayez parmi vous, si vous êtes éloigné de la parole, vous êtes éloigné de la parole. C'est vrai. Comment Dieu peut-il jamais bénir une telle chose, aussi longtemps qu'il renie la parole même de Dieu ? Comment peut-il bénir quelque chose en dehors de sa parole, quelque chose qui est contraire à sa parole ? Comment peut-il la renier ? Comment pouvez-vous bénir un cancer qui vous ronge ? Comment pourriez-vous bénir un fil électrique que vous tenez en disant « Oh, tiens-moi bien et brûle-moi complètement ?» Ce serait de la folie. Amen. Comment Dieu peut-il bénir quelque chose qui est contre sa parole ? Amen. Ainsi, revenez à la parole. Vous, bande de prédicateurs agissant comme des chiens, qu'est-ce que vous avez ? Vous sortez là et vous vendez vos droits d'aînesse pour un plat de lentilles afin de rouler à bord d'une Cadillac ou autre chose, ou pour un imposant palais quelque part, pour une grande église d'un million de dollars, ainsi que pour toutes les choses de ce genre, et vous vendez vos droits d'aînesse ? Vous avez honte et peur de prêcher la parole de Dieu à vos assemblées ? Dites, n'avez-vous pas honte de vous-même ? Et vous vous appelez serviteur, prophète de Dieu, tout en vendant vos droits d'aînesse pour un plat du monde? Qu'allez-vous produire? La même chose qu'Ésaü. Oh, quelle disgrâce! Oh non! Un Dieu saint qui veille sur sa parole pour la confirmer ne pourrait pas bénir quelque chose qui est contre sa parole. Comment, maintenant écoutez, je suis juste un petit peu en retard, et il se peut que je sois en train de vous couper le souffle à mort, mais regardez, j'aimerais vous poser une question. Comment un Dieu saint, qui a proclamé sa parole et a dit, « Et les cieux et la terre passeront, mais elle ne passera pas, pas un seul iota », maintenant comment pourrait-il prendre quelque chose de contraire à cela et le bénir ? Comment pourrait-il le faire ? Regardez, il produit ses preuves, il confirme sa parole, il dit ce qui est vrai. Ce n'est pas par le fait d'être membre. Observez Moab. Moab avait aussi sa parole. Moab. Israël avait sa parole. Et Moab avait une forme de piété avec sa parole. Ils ont offert 7 sacrifices des taureaux purs sur 7 autels. Le nombre parfait, le sacrifice parfait. Ensuite, à part cela, il a pris 7 béliers pour dire qu'il croyait à la venue du Fils de Dieu. Et il les a offerts là-haut en compagnie de leur éminent archevêque. Tout leur dignitaire, tous leurs prêtres et tous les autres se tenaient tout autour de leurs rois et présidents et que sais-je encore, et ont offert cela aussi religieusement que possible contre Israël. Et voilà qu'Israël était là, comme une petite bande de renégats. Mais qu'est-ce qui accompagnait Israël ? Dieu était dans leur campagne. Il était en train de confirmer lui-même qu'il était avec eux, voyez-vous ? Peu importe combien de patriarches, de papes, que sais-je encore, qu'ils auraient pu avoir, Dieu ne pouvait être avec eux avant qu'il n'ait démontré lui-même qu'il était avec eux. Mais aussi longtemps qu'ils soient loin de sa parole et qu'ils la renient, comment peut-il être avec eux ? Il n'y a pas de signe du Dieu vivant parmi eux. Comment Dieu pourrait-il être parmi les Nations Unies alors que deux hommes ne peuvent pas marcher sans s'être mis d'accord ? Maintenant, regardez par ici. Voici la soi-disant Église du Christ unie aux pentecôtistes. Les pentecôtistes disent qu'ils croient au parler en langue. Ils croient que l'évidence du Saint-Esprit est le parler en langue. Ils disent qu'ils croient des choses et d'autres. Ils croient aux signes et aux prodiges. L'Église du Christ se rit d'eux et dit, « Bande d'ignares, cela était pour les jours d'autrefois. Comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans en être convenues ? Elles se sont unies ? Que font-elles ? Elles recherchent la sécurité l'une auprès de l'autre. » Arrêtez de raconter de pareilles histoires. Ma sécurité est en Christ et dans sa parole, car sa parole, c'est lui-même. C'est juste. Pas de signe du Dieu vivant, rien du tout. C'est ce que Jésus disait. Si je ne rends pas la parole manifeste, alors ne la croyez pas. Si Dieu ne parle pas et ne prophétise pas par moi, s'il ne parle pas par moi et ne fait pas par moi exactement ce que le Messie est censé faire, alors ne me croyez pas. qu'un homme dise qu'il est un prophète envoyé de Dieu et qu'il renie la parole, que Dieu soit miséricordieux envers une telle chose. Comment Dieu peut-il faire une telle chose? Laissez-moi demander ceci maintenant. Je ne sais pas quand je vais encore vous parler. Cela dépendra de Dieu. Je ne fais qu'emmagasiner de la nourriture, comme il me l'a dit dans cette vision, en ce temps-là, de la mettre dans des tonneaux. Vous me demanderez, comment Amos pouvait-il prévoir ce qui allait leur arriver? Certes, cela avait l'air bien. Regardez, maintenant regardez ici. Eh bien, écoutez attentivement maintenant, parce que tout ceci est sur bande et va et ira à travers le monde, voyez-vous? Maintenant, comment? Regardez ici, il y avait là Israël. Leur séminaire était plus que jamais en meilleure forme. Il n'y avait personne pour les tourmenter. Ils avaient leur propre religion. Ils n'avaient... Personne ne disait, vous ne pouvez pas adorer Jéhovah. Allez de l'avant, disaient les nations païennes. Adorez, nous avons conclu une alliance. Ce prophète y voyait clair, voyez-vous? De même aujourd'hui, un prophète y verra clair, voyez-vous? Allez de l'avant. Et Israël disait, bon... « Mangeons, buvons, réjouissons-nous !» Ainsi, ils rassemblèrent un groupe et se firent des credos, des organisations, des dénominations et autres, et arrangèrent tout cela. Et là, leurs femmes vivaient tout bonnement dans les plaisirs et le péché. Mon ami, menant une mauvaise vie dans des cabarets et autres, à moitié nus, portant de petites jupes en soie à la mode, si jamais vous examiniez une partie de leur histoire, autrefois, leur apparence, oh, presque le tiers était aussi mauvais qu'ils le sont aujourd'hui. Pas tout à fait, cependant, parce qu'ils ne le pouvaient pas. Oui, et la façon dont ils agissaient, se comportant mal comme cela, et les rois et les prêtres et tout le monde. Jésus a dit, vous dévorez les maisons des veuves, espèce d'hypocrite. Il l'a dit. Et toutes ces choses qu'ils faisaient, ce prophète se tenait là et regardait en bas comme cela, cette nation. Pas étonnant qu'il en ait eu le cœur déchiré. Oui, monsieur. Maintenant, vous dites, comment a-t-il su ce qui allait arriver? Comment a-t-il pu prévoir cela? Comment? Tout semblait bien marcher. En effet, ils avaient beaucoup de nourriture, ils avaient beaucoup d'habits, ils avaient leurs grandes églises, ils prospéraient avec de l'argent placé partout. Les plaisirs, les danses dans la rue, l'immoralité, et tout continuait simplement, et tout allait bien. Juste comme l'Amérique aujourd'hui. La télévision est pleine de sales plaisanteries de femmes à moitié nues, de tout le reste. Tout ce qu'on voit n'est qu'ordure et péché. Vous n'avez pas à regarder la télévision. Ouvrez simplement les yeux, regardez n'importe où. Des filles, des garçons, des hommes, des femmes fument et boivent. C'est Jézabel qui se disent chrétiennes, de sales démons qui se nomment méthodistes, baptistes, presbytériens, catholiques et pentecôtistes. Pas étonnant que cela lui fit rétrécir les yeux pendant qu'il regardait. C'est vrai. Tout semble bon. Comment pouvez-vous ménager cela si nous allons faire? Comment, regardez cela. Oh, nous en avons 1 million de plus. Nous, nos bâtiments sont, nos églises sont si grandes. Nous devons construire de nouvelles églises. Bon, nous avons tellement d'argent que nous ne savons qu'en faire. Alors nous construisons simplement les meilleurs bâtiments du pays. Les plus grandes églises, c'est nous qui les possédons, et nous avons toujours beaucoup d'argent. Ne pensez-vous pas que Dieu nous est béni? Non! Vous êtes en dehors de sa parole. Et frère Branham, vous voulez dire que Dieu va détruire ça? Oui, chacun d'eux. Comment le savez-vous? Amos, comment le saviez-vous? Juste comme un docteur qui fait le diagnostic d'une maladie. Dès qu'il découvre la maladie du patient, il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'a le patient, il sait jusqu'à quel stade elle a évolué, il sait ce qui va arriver. Et il en est de même d'un prophète, d'un vrai prophète. Dès qu'il voit, peu m'importe ce que vous êtes en train de faire, quand il voit le péché évoluer, c'est un cancer qui ronge. Et il est tellement avancé chez les pentecôtistes et tous les autres qu'il a atteint le point de non-retour. C'est un stade avancé, ils vont périr. C'est de cette façon qu'Amos a pu diagnostiquer le cas. Il l'a diagnostiqué par la parole de Dieu. C'est de cette façon que qu'un vrai prophète diagnostique le cas et dit à ses femmes, n'osez jamais aller au jugement avec des cheveux coupés alors que vous en savez mieux. Il s'adresse à vous, hommes, à tous les autres, ainsi qu'à vous, prédicateurs, qui reniez la parole en ayant une forme de piété, vous joignant aux organisations pour esquiver la question. alors que vous savez mieux que cela. Vous regardez à la même parole que les vrais prophètes avaient regardé. Le diagnostic du cas dit mort, séparation. Juste comme un docteur, il connaît le cas, il sait quel genre de symptômes cela présente. Considérez cette nation. Quand vous dites, c'en est fini des pentecôtistes, quand ils vont mettre, ils ne vont même pas vous laisser venir à l'église parce que vous prêchez aux femmes au sujet de leurs cheveux coupés. Et la Bible condamne cela. Ils craignent que vous puissiez dire quelque chose au sujet d'eux. Un autre jour, ici, alors que j'organisais des campagnes sur la côte ouest, Roy Borders était là, on lui a amené en une fois un groupe de ministres, oh je pense environ 40 ou 50 prédicateurs, là où je tenais une grande réunion. Ils ont dit, Monsieur Borders, nous aimerions vous poser une question. Il a dit, est-ce vrai que Frère Branham utilise le nom du Seigneur Jésus-Christ pour baptiser? Monsieur Borders, un gentleman qui a beaucoup de dignité, comme vous le savez, le frère Borders d'ici, a dit, « Messieurs, dit-il, Frère Branham, quand il sort pour ses campagnes, telles que celle-ci, dit-il, il ne prêche pas, il va simplement de l'avant et prie pour vos malades. Voilà à peu près ce qu'il fait. » Le ministre dit, « Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Est-ce qu'il... » Eh bien, ils ont reçu les bandes, ils le savent. Et il a demandé, « Est-ce qu'il baptise au nom de Jésus-Christ ?» Il répondit, « Oui, dans sa propre église. C'est l'unique endroit où il baptise, dans sa propre église. » Il dit, « C'est cela, c'est tout ce que je voulais savoir. Nous ne voulons pas de lui, nous ne voulons pas de cette hérésie parmi nos gens. » Et l'autre jour, quand mon brave ami, Ed Dalton, a reçu une lettre venant de l'église baptiste, on lui a dit, « Nous vous excommunions de la communauté baptiste parce que vous vous êtes joint à l'hérésie d'être baptisé au nom de Jésus. » J'aime prendre position avec Paul. Dans ce que le monde appelle hérésie, c'est de cette manière que j'adore Dieu, parce que c'est sa parole. Amen. Oui, monsieur, oui. Oh, bien sûr, le docteur fait le diagnostic du cas. Il voit à quelle étape ça se trouve. Un vrai prophète diagnostique le cas par la parole. Il fait quoi? Un docteur diagnostique son cas par les symptômes. Est-ce vrai? Il observe les symptômes, il voit ce qui ne va pas chez le malade, il voit combien la maladie est avancée, et dit, plus rien ne peut être fait. Et un vrai prophète prend la parole de Dieu, et diagnostique les cas, et administre le remède, et les gens le rejettent en sa présence. Que va-t-il arriver? La perdition, c'est tout. Bande d'hypocrites marqués par le monde, aimant le plaisir. Mais c'est cela, la manière d'un vrai prophète. Oh là là! Il voit les maladies, il a vu qu'ils se sont éloignés de la parole, il a vu la parole, et il connaissait les résultats, ce qui allait arriver, il a vu la volupté dans laquelle il vivait, il a vu de quelle manière ces femmes se comportaient, il a vu de quelle manière ces prêtres agissaient, comment ils s'étaient éloignés de la vraie adoration de Dieu, et des choses semblables. Il y a, il avait la réponse, il dit, ce Dieu que vous prétendez servir vous détruira. Pourquoi ? Vous n'avez pas gardé mes commandements. Et pourtant, il pensait qu'il les gardait. N'ai-je pas lu cela ici même? Le verset 2, 4e, chapitre 2, verset 4. Parce que je vous ai choisi, vous, pour être le... Parmi toutes les familles de la terre, c'est vous que j'ai choisi. Et pourtant, vous refusez de marcher selon mes commandements. Vous pensez que ce petit prophète chauve... qui se tenait là avec cette barbe grise bigarrée, des yeux flamboyants, s'adressant à cette bande de prêtres et autres en disant, « Le Dieu que vous, hypocrites, prétendez servir, ce même Dieu vous détruira. » Pensez-vous qu'il aurait obtenu leur collaboration? Oh là là! Il le ferait. Testez-le aujourd'hui pour voir s'il le ferait. Non, mais il, quoi? C'est la manière d'un vrai prophète. Il avait la parole, il savait ce que c'était, tout comme Michée d'autrefois. Le petit bébé que j'ai consacré, il y a quelques instants j'en ai mis certains de côté parce que je veux gagner du temps, mais Michée les regardait alors qu'il se tenait là devant Akab, il connaissait la parole, Michée leur annonça la parole. Pourquoi? Michée examina sa vision, sa doctrine par la parole de Dieu. Et il vit que sa doctrine et la parole étaient la même chose, parce que la parole disait qu'il allait maudire Akab et ferait lécher son sang par les chiens. C'est ce que disait la parole. Ainsi, Michée eut une vision. Il était un prophète. Voyez-vous quelle parole vient à moi? Et il a prié, « Ô Seigneur Dieu, que dois-je faire? Que dois-je dire à ce groupe de prédicateurs qui se tiennent là? Voici toutes les organisations, tout le monde dans le pays s'est ligué contre moi, Seigneur. Me voici devant le roi, que dois-je dire ?» Et il entra dans une vision, il dit, « Vas-y, monte, dit-il, mais j'ai vu Israël dispersé comme un troupeau sans berger. » Ce pasteur de district s'approcha de lui et le gifla à la bouche, disant, « Par où est passée la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, quand il est sorti de moi ?» De lui, savez-vous ce que Dieu a dit? Il a permis à un démon de descendre et de s'introduire parmi eux parce qu'au départ, ils étaient loin de la parole. La Bible dit que s'ils ne voulaient pas croire la parole, il leur donnerait une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés par cela. C'est exactement ce que font aujourd'hui ces organisations ainsi que les gens de cette nation. Ils croient au mensonge pour être condamnés par cela. Car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel vous devez être sauvés. Mettez-vous en ordre, vous les gens des organisations et autres. Oui. Maintenant, à quoi ces autres prophètes regardaient-ils? Ils étaient des prophètes. Oui, monsieur, ils étaient des prophètes. Mais si seulement ils s'étaient arrêtés pour examiner leurs prophéties par la parole. Si les méthodistes s'arrêtaient aujourd'hui pour examiner leurs prophéties, ils n'aspergeraient plus personne, ils recevraient le Saint-Esprit, ils baptiseraient tout le monde par immersion au nom de Jésus-Christ. Si les assemblées de Dieu s'arrêtaient aujourd'hui pour voir leurs prophéties, ils reviendraient à la parole. Si les unitaires s'arrêtaient aujourd'hui pour examiner leurs prophéties, ils reviendraient à la parole. Mais vous voyez, si ces prophètes-là s'étaient arrêtés pour examiner leurs prophéties, ils raisonnèrent et dirent, « Cela nous appartient. Ainsi nous monterons à Ramoth en Galaad et nous nous en emparerons parce qu'il nous appartient. Josué nous l'a donné. » Mais Michée dit, « Cela semble raisonnable. Mais voilà ce qu'il en est. Vous n'avez pas besoin de raisonner. Vous avez besoin de croire ce que Dieu a dit. Ne raisonnez sur rien. » Et que serait-il arrivé si Abraham avait raisonné? Comment aurait-il jamais quitté son pays? Comment aurait-il continué à louer Dieu à 100 ans? Et comment allait-il avoir un bébé par Sarah, elle qui avait 90 ans? Chassez les raisonnements. Amen. Croyez tout simplement. Amen. Vous laissez le diable vous dire, vous savez, frère Branham n'est rien qu'un hypocrite. Maintenant attendez, laissez-moi voir s'il enseigne correctement. Laissez-moi retourner à la Bible. Non, ne faites pas cela. Il ne vous laissera pas faire cela. Non, non, voyez-vous. Mais il dira quelque chose de mauvais à mon sujet, ce qu'il pourrait avoir le droit de faire. Alors vous continuez simplement à recevoir cela, vous vous arrêtez, commencez à raisonner. Oui, il n'aurait pas dû faire ceci, il n'aurait pas dû faire cela. Si vous commencez à m'observer, eh bien, vous en aurez simplement beaucoup. Et si vous vous mettez à observer le Seigneur Jésus, vous pourrez en trouver beaucoup. Observez-le un instant. Je vais prendre chacun de vous comme un ministre. Maintenant, oublions qu'il a déjà vécu sur la terre. Voici un enfant dont il est établi dans toute la nation qu'il est né un enfant bâtard. Sa mère l'a conçu avant que son père et elle ne soient encore mariés. Cela est prouvé. Maintenant, il ne se réfère pas à la parole. Une vierge concevra. Il se réfère seulement à ce qu'ils entendent. Voyez-vous, un enfant illégitime. Ne lui disait-il pas qu'il était né dans le péché et qu'il essayait de les enseigner, vous voyez? Et observez ce qu'il faisait. En fait, il déchirait chaque église qu'il y avait dans le pays. N'était-ce pas vrai? Les organisations et le reste, qui était-il? Simplement un quelconque garçon trop grand pour son âge qui circulait comme cela? Un jeune homme sans dénomination? Dis-moi quelle église tu appartiens. Qui est ton père? Tu dis que Joseph n'est pas ton père? Joseph n'est pas mon père, disait-il. Bon, qui est ton père? Dieu est mon père. Ça alors, espèce de fanatique, voilà exactement ce que tu es. Toi, tu es un homme et tu dis que Dieu est ton père? S'ils avaient examiné cela avec la parole, alléluia! Ne voyez-vous pas cela? La parole devait être faite chair. Ils n'ont pas examiné leur vision avec la parole. C'est cela, c'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Vous n'examinez pas vos visions avec votre prophétie et votre doctrine avec la parole de Dieu. Quelqu'un essaye de vous dire la vérité, alors vous vous fâchez contre lui. Juste comme Amos le ferait, comme Amos l'a fait, vous feriez la même chose. Maintenant, regardez ici. Il est dans cette condition. Alors peut-être que vous l'auriez condamné, c'est vrai, si vous n'étiez pas retourné à la parole. Ils font la même chose, ils le condamnent aujourd'hui. Qu'arriverait-il si vous, les femmes ici présentes, oui, pourquoi n'examinez-vous pas votre pensée sur vos cheveux coupés avec la parole pour voir ce qu'elle dit? Pourquoi ne faites-vous pas ces choses? Pourquoi n'examinez-vous pas votre baptême du Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi que cette fausse Trinité, ainsi appelée, qui n'est rien d'autre au monde que trois offices d'un seul Dieu, des titres? Père, ce n'est pas un nom. Une chose comme Père, Fils et Saint-Esprit n'existe pas en tant que nom. Le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comparez votre baptême avec la façon dont tout le monde était baptisé dans la Bible. Si vous pouvez examiner votre pensée avec la parole, vous reviendrez et vous vous ferez baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul leur a dit de faire, disant que si quelqu'un d'autre enseignait quoi que ce soit de différent, qu'il soit maudit, même si un ange descendait. Vous savez, plusieurs fois des anges descendent. Oh, mon garçon, comme les pentecôtistes avalent cela! C'est comme lorsque Saint Martin, un homme qui baptisait au nom de Jésus, qui croyait dans le Saint-Esprit, qui gardait la parole, se tenait là, et voici qu'un grand être brillant s'est présenté devant lui. Et les Romains l'avaient expulsé, et lui avaient fait tout subir pour essayer d'introduire leurs dogmes et doctrines faites de main d'homme. Mais cet homme s'est tenu sur la parole. Et un jour, dans sa puissance, les démons venaient vers lui, essayaient de s'entretenir avec lui. Il ne leur prêtait pas attention. Un jour, Satan est venu comme Christ, couronné, portant des pantoufles en or. Il s'est tenu là et il a dit, « Est-ce que tu ne... » Avec des flammes de feu autour de lui, il a dit, « Ne me reconnais-tu pas, Martin? Je suis ton Seigneur, adore-moi. » Martin l'a regardé. Il y avait là quelque chose de faux. Il a dit, « Martin, ne peux-tu pas me reconnaître ?» Il a dit, « Moi, je suis ton Seigneur et Sauveur. » Il a dit, « Adore-moi. » Et il a dit cela trois fois. Et Martin a regardé tout autour. Il a compris que Christ serait couronné par ses sujets lors de sa venue. Il ne porterait pas de pantoufles en or. Il lui a dit, « Éloigne-toi de moi, Satan !» Mon garçon, les pentecôtistes n'avaleraient-ils pas cela? Mon garçon, un ange très brillant. Une femme venant de Chicago, où je vais me rendre, a dit, « Frère Branham, les prédicateurs de là ont dit que si l'ange du Seigneur vous avait dit de baptiser au nom de Jésus, il l'aurait accepté. Mais puisque cela est votre propre pensée, j'ai dit, si l'ange du Seigneur disait quelque chose de contraire à cela, ce ne serait pas l'ange du Seigneur, voyez-vous? Si un ange dit quoi que ce soit de contraire à cette parole, que cela soit reconnu comme un mensonge. » Et si un homme vous dit, un messager de Dieu, s'il dit qu'il vient de Dieu et qu'il vous dit que c'est juste d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il soit reconnu comme un menteur. Amen. Si un homme vous dit que c'est très bien pour vous d'avoir des cheveux coupés, des choses semblables, et que vous devez porter un chapeau dans l'église ou un bonnet pour servir de voile, qu'il soit reconnu comme un menteur et la parole de Dieu comme la vérité. Toutes ces choses qui sont contraires à la parole, que cela soit reconnu comme un mensonge. C'est la parole qui est la vérité. Amen. Elle demeurera. C'est pour cette raison que Michée pouvait savoir que sa prophétie venait de Dieu, parce qu'elle s'accordait avec la parole de Dieu. Oui, monsieur, sa vision appuyait juste la même chose que la parole de Dieu appuyait. Amen. Oh, si Amos était ici, il resterait avec la parole. C'est vrai. Mais vous voyez, la difficulté que nous avons aujourd'hui est semblable à celle qu'ils ont eue. Je m'apprête à terminer. Notre difficulté est pareille à la leur. Ils avaient reçu des enseignements qui ne reposaient pas sur le fondement. Jésus a dit, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet par vos traditions. Et ce faux baptême, cette fausse évidence d'avoir reçu le Saint-Esprit, quelques-uns d'entre eux disent, serrez la main, les autres disent, parlez en langue. J'ai entendu des démons parler en langue et aussi se serrer les mains. Oui, monsieur, cela n'en est pas l'évidence. Maintenant, regardez, toutes ces choses comme cela, toutes ces choses-là, voyez-vous, vous vous éloignez de la parole de Dieu pour enseigner ces traditions-là, c'est vrai. Maintenant, il devait vous ramener à la parole. Mais nous avons, nos docteurs d'aujourd'hui ont apporté aux gens un enseignement qui ne repose pas sur le fondement de la parole de Dieu. Maintenant, écoutez attentivement. C'est ce qu'ils avaient fait là-bas. C'est ce qu'Amos leur disait. Le Dieu que vous prétendez connaître est celui qui va vous détruire. De quel enseignement les avons-nous éloignés? Du fondement de la foi qui était une fois transmise au Père de la Pentecôte. Oui, la Bible. Nous avons enseigné un faux purgatoire, nous avons enseigné un faux baptême. Tout est faux, faux, faux. Nous séparons de l'original. Si vous ne le croyez pas, revenez à la Bible. Prenez votre purgatoire, votre Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi que votre aspersion et toutes ces histoires, et revenez pour voir si c'est scripturaire. C'est ainsi qu'il faut faire. Voyez si ça repose sur le fondement. Voyez-vous, ils sont en dehors du fondement dont Paul a dit que la Bible dit que que l'Église de Dieu est fondée sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Les prophètes et les apôtres doivent être identiques. Assurément. Quoi? Nous avons quitté le fondement de la parole pour les fondements dénominationnels. Écoutez maintenant pour terminer. Revêtez-vous de votre audiophone spirituel. Écoutez, nous nous sommes écartés du fondement de la parole et nous nous sommes posés sur le fondement d'une dénomination. Pendant combien de temps pourrais-je rester sur cela? 3 heures de plus. Nous nous sommes éloignés du fondement de la parole pour le fondement des plaisirs du monde, de la mondanité, l'immoralité s'infiltrant dans l'Église. Nous nous sommes éloignés de la parole pour les credos. Cela me prendrait 3 semaines pour en prêcher la moitié au sujet de ces 4 commentaires qui sont la même. Éloignés de la parole pour se fonder sur une dénomination. La dénomination et la parole. Aussitôt que l'Église s'organise en une dénomination, elle s'écarte de la parole à l'instant même. Il n'y a qu'une seule chose, retourner juste à l'endroit d'où l'on s'était écarté du chemin et repartir, retourner à la parole. C'est vrai. Se repentir veut dire aller faire demi-tour, faire volte-face. Vous êtes sur la mauvaise voie. Très bien. Une dénomination de plaisir. Une dénomination de la monde, un fondement, je veux dire de plaisir, un fondement de mondanité, un fondement de credo. Et tout cela ensemble a produit une corruption immorale, une corruption spirituelle. Lui, en tant que vrai prophète, il verrait en nous juste exactement ce qu'il a vu en eux. S'il se tenait aujourd'hui, ici, sur cette estrade, et que je lui disais... Frère Amos, grand prophète de Dieu intrépide, venez ici et prenez ma place, il prêcherait cette parole. Il devrait le faire, il est un prophète. Très bien, il la prêcherait exactement telle qu'elle est écrite, juste ce que nous sommes en train de dire maintenant. Très bien, il verrait en eux ce qu'il voit en nous, la dépravation immorale. Observez un peu mes amis, combien ici, dans cette église ici présente maintenant, combien voient que le monde est dans la dépravation de l'immoralité? Certes, nous savons qu'il s'y trouve. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est éloigné de la parole. C'est vrai. Très bien. Amos ne réprimanda jamais le gouvernement. L'avez-vous remarqué ici? Lorsque vous lirez cela à votre retour à la maison, il ne réprimanda jamais le gouvernement, il réprimanda l'Église pour avoir élu pareil gouvernement. Vous, politiciens, laissez-moi le faire pénétrer profondément en vous pendant un instant, ici, à travers le monde, où ça va partir. L'Église avait élu un individu comme Jéroboam. Je me demande si nous n'avons pas fait à peu près la même chose. Supposons que ça soit un bon gouvernement. Le gouvernement ne peut pas bâtir une maison sur un roc alors que le peuple vote pour une maison sur du sable, n'est-ce pas? Ne dites pas notre gouvernement, c'est vous la nation, c'est le peuple. Comment pouvons-nous? Un prédicateur m'a parlé disant, frère Branham, dit-il, regardez, je sais que là-dessus vous avez raison, mais dit-il, si je prêchais cela, ma dénomination me bouterait dehors, mes gens me chasseraient aussitôt de l'église. Il a dit, je ne pourrais plus jamais prêcher un autre sermon. J'ai dit, prêchez cela de toute façon. Oui, monsieur, c'est la parole de Dieu. Vous êtes responsable. Si vous êtes un prophète de Dieu, un vrai, vous resterez avec la parole. Sinon, vous resterez avec votre dénomination. Cela dépend de l'endroit d'où vous venez. Regardez. Non, monsieur, nous ne pouvons pas bâtir, le gouvernement ne peut pas bâtir une maison sur un roc solide quand le peuple vote pour une maison de plaisir sur du sable mouvant. Examinez ce que nous désirons. Prenons juste une minute maintenant. Autrement, j'espère que je ne vous épuise pas, mais voyons ce que nous désirons, juste une minute. Je ne peux pas laisser ce commentaire, cette note. Examinez ce que nous désirons. Considérez notre télévision. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que certains de ces comédiens se tiennent là et fassent toutes sortes de plaisanteries malsaines et nous restons à la maison loin de la réunion de prière du mercredi soir. Ou alors le prédicateur vous laissera sortir plus tôt pour que vous puissiez aller voir cela, une vieille prostituée, crapuleuse, sale, mariée 5 ou 6 fois, faisant de sales plaisanteries, habillée de façon sexy, se méconduisant comme tout, et vous aimez cela plus que la maison de Dieu. Cela montre quel genre d'esprit est en vous. C'est nous qui autorisons cela, nous le peuple. Si le peuple de cette nation adressait des lettres à notre gouvernement, il y en aurait 100 millions qui parviendraient à ce gouvernement par avion, disant « Arrêtez ces sales programmes », ils devraient le faire. C'est nous le peuple. Mais nous le peuple, nous aimons la saleté. Ainsi, c'est ce que nous obtenons. Suivez les programmes de radio. Oh là là! On a converti le rocher des âges en twist, la vieille croix rugueuse en swing, le rock'n'roll par cela, la vieille croix rugueuse, oui bien sûr, à nos radios, télévisions, à tous les... Il n'y a pas longtemps, ces filles ont mis ici ces crinolines. Toutes ces choses sont aussi immorales qu'elles peuvent l'être. Voilà ce que nous aimons. Qui soutient, parraine cela? La bière, le whisky, les cigarettes? L'argent de la nation, qu'est-ce qu'ils font? Ils prélèvent l'argent qui devrait revenir au gouvernement à titre d'impôt et le payent pour ces programmes souillés et malsains qu'ils présentent à la télévision. Les pentecôtistes n'avaient pas l'habitude de se rendre à ces sales et malsaines projections de cinéma quand de tels spectacles étaient présentés. Mais le diable en a placé une à côté de vous. Il a introduit la télévision dans votre maison. La manière d'un vrai prophète est très dure, mais restons avec la vérité. Amen. Oui, monsieur. Regardez nos panneaux publicitaires. Des femmes en vedette avec des cigarettes en main, chaque petite Jézabel du pays. Tenez, je suis allé à... L'autre jour, j'ai vu une chose étrange. Il y avait une femme qui... J'étais allé là à l'école pour reprendre les enfants quand j'y allais pour les chercher... qui portaient des shorts, et le temps était glacial. Chacune d'elles avec, aussitôt qu'elles arrivaient là et qu'elles s'arrêtaient, si elles n'avaient pas de cigarette, elles en allumaient une tout de suite. Frère Branham fait un bruit, comme pour souffler de la fumée, note de l'éditeur. Voyez-vous comment je marche? Elles se tenaient à la porte avec la main à l'extérieur, comme ceci, tenant une cigarette. Et si vous leur dites quelque chose, oh, elles s'emportent, bien sûr. Si vous dites quelque chose à Ricky ou à Elvis ou à l'un d'eux, là, ils vous tireraient dessus et le gouvernement les défendrait parce qu'ils ne sont que des adolescents. Eh bien, c'est normal, ils ne réalisent pas, ce sont des adolescents, oubliez cela. Maintenant, voyez-vous ce que ça signifie, un vrai prophète, sa manière? Voyez-moi ces sales rêveurs dans les églises avec leur dénomination, ils vous tireraient une balle en plein dans le dos. La seule chose qui les retient de le faire, c'est la miséricorde de Dieu jusqu'à ce que le message soit répandu. Le diable vous tuerait s'il le pouvait, c'est vrai, mais le message doit aller de l'avant. Moi, le Seigneur, je restaurerai, c'est vrai. Je suis capable de susciter cela de ces pierres, c'est vrai, très bien. Nos projections cinématographiques, nos panneaux publicitaires, nos pécheurs épris de plaisir qui se disent chrétiens, des gens qui se nomment chrétiens, épris des plaisirs, épris des convoitises, des femmes habillées de façon immorale, les hommes les regardent, les appellent en sifflant, et ils se disent chrétiens. Ils sortent, tenez, c'est quelque chose de grand en Floride, en Californie, qu'ils aient maintenant de grands clubs. Tous les hommes se rassemblent et jettent leurs clés là-dedans, et les femmes y entrent et en retirent chacune une des clés, et celui à qui appartient la clé l'amène comme femme chez lui. Ils cohabitent pendant une semaine et puis ils reviennent et jettent encore leurs clés. Voyez-vous, ce sont des clubs, des enfants, des bâtards et toutes les autres choses. Les cochons s'entre-dévorent et les chiens s'entre-dévorent. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'ils ont abandonné la parole. Elles ignorent ce que signifie la pudeur. Elles sortent ici en petites vieilles robes serrées, des choses semblables. Des hommes les convoitent, elles pensent qu'elles ont de la pudeur. Il se peut que vous n'ayez rien fait de mal, sœur, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes un instrument du diable. Et à la barre du jugement, ainsi dit le Seigneur, vous allez répondre d'avoir commis adultère et votre âme sera perdue. Vous en êtes avisé, vous le savez maintenant de toute façon. Notre structure tout entière est corrompue et pourrie. C'est notre peuple, c'est ce qu'ils veulent. C'est comme un brave maître de la maison. En effet, si un homme était un brave maître de la maison, blâmant votre gouvernement, c'est ce qui envoie nos enfants là-bas et en fait de la chair à canon. C'est vrai. C'est à cause de notre propre corruption. Si nous aimions le Seigneur et que nous le servions et votions pour le genre de gouvernement qu'il faut et tout le reste, ce serait un endroit merveilleux, c'est vrai. Nous n'aurions pas de guerre, non. Dieu est notre refuge et notre force. Si nous envoyons nos enfants et qu'on les tue et qu'on les massacre et ainsi de suite, c'est parce que notre propre agissement a causé cela. Dieu l'a dit dans la Bible et il ne change pas. Il est exactement le même, c'est le désir de leur propre peuple. C'est comme un brave maître de la maison. Que ferait un brave maître qui veut agir correctement, qui veut vivre pour Dieu, mais qui a une famille qui aime l'immoralité et le plaisir? Que ferait un homme quand sa femme aime porter des shorts, porter des habits sexy, sortir, se comporter comme une Jézabel, y compris ses filles, tous ses enfants et tous les autres? Leur papa dit, son petit enfant qu'il a élevé, aimé, porté, embrassé, amené au lit, pour lequel il a prié, se lève et dit, « Mon vieil homme est devenu fou. Tout ce à quoi il pense, c'est la Bible. Qu'est-ce que cet homme peut faire de sa famille ?» Il en est de même pour notre gouvernement, concernant son peuple d'ici. Ne blâmez pas le gouvernement, blâmez cette bande d'églises rétrogrades pour avoir introduit dans leur politique des choses comme celles qu'elles ont. Ils veulent bien cela. C'est pour cette raison qu'ils votent pour cela, et c'est pour cette raison qu'ils ont obtenu cela, et c'est pour cette raison que le jugement de Dieu est sur eux, et ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Amen. Ils sont en train de semer maintenant, et ils vont récolter plus tard. Amen. Nous, observez, oh, nous sommes atteints de folie, oh oui, nous essayons d'acquérir notre entrée en Russie à prix d'argent, nous essayons d'acquérir à prix d'argent la confiance du communisme, nous essayons de... Eh bien, l'argent, vous ne pouvez pas acheter ces dons de Dieu. Amen. Il y eut un gars, Simon, qui essaya de faire cela un jour, et Pierre dit que tu périsses avec ton argent. Nous sommes en train de jouer le rôle de Simon le magicien en essayant d'acheter un don de Dieu. Revenez à la parole, revenez à Dieu, revenez à Christ, et alors ne vous inquiétez pas au sujet du communisme. Nous voterons pour l'homme qu'il faut. Nous aurons un autre homme pareil à Abraham Lincoln, à George Washington ou à quelqu'un qui était un véritable homme. Ne blâmez pas ce gouvernement qui est là. Blâmons-nous nous-mêmes. C'est ce que dirait Amos et c'est ce que dira tout vrai prophète de Dieu s'il connaît la parole de Dieu. S'il est un vrai prophète, il connaît la parole parce qu'elle vient à lui. Israël, dans leur alliance qu'ils avaient faite, Avec leur ennemi, ils devaient d'abord s'éloigner de la parole de Dieu avant qu'ils n'aient pu faire une alliance avec leur ennemi. Et avant que nous ne puissions faire alliance avec nos ennemis et autres, nous devons nous éloigner de la parole de Dieu. C'est la même chose maintenant, quand nous laissons Rome prendre le dessus. Certes, nous le faisons tout le temps. Elle a gagné le gouvernement, elle est en train de gagner du terrain, elle est en train de gagner le peuple. Maintenant, elle est en train de gagner des églises. Que sommes-nous en train de faire? Nous gardons silence, nous nous mettons d'accord avec eux. Oh, peu importe que ça aille dans ce sens-ci ou dans ce sens-là, de toute façon, tout cela, c'est Dieu. Vous, espèce de soi-disant prophètes, pauvres, misérables et rétrogrades, qu'avez-vous donc? Ils ne connaissent pas la parole de Dieu concernant ces choses. Ils n'étudient pas la parole. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils disent que le communisme va conquérir le monde. Non, il ne va pas le faire. C'est le romanisme qui va conquérir le monde. Et il le fait sous le nom du christianisme. La Bible, Jésus n'a-t-il pas dit que ce serait si proche que ça pourrait tromper, séduire même les élus, si c'était possible. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, laissez-moi terminer en disant ceci, maintenant je vais terminer. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un autre vrai prophète.
Amen.
Amen. Il nous faut un homme à qui viendra la parole de Dieu. Oui, frère, il sera rejeté, mis dehors, jeté dehors, mais assurément, il taillera une brèche. Il le fera. Il aura sûrement semé pareille semence jusqu'à ce que les élus la retrouvent. C'est vrai, il nous faut un prophète. Nous avons besoin d'un homme à qui vient la vraie interprétation de la parole pour que Dieu parle par lui et confirme la parole pour la rendre vraie. C'est ce qu'il nous faut. Et frères, on nous en a promis un selon Malachie 4 pour ramener quoi ? La foi des gens à la Bible.
Amen.
On nous en a promis un, il le fera.
Amen.
Amos savait, oui monsieur, Amos savait qu'Israël, ses amoureux impies, allaient bientôt le détruire. Et leurs amoureux impies d'aujourd'hui vont bientôt les détruire. Les credos dénominationnels même et autres auxquels ils se sont liés, vous pentecôtistes, c'est la chose même qui va vous détruire. Votre credo et votre dénomination. Vous ne faites que vous liez là-bas pour prendre la marque de la bête. Et vous ne le savez même pas. Cela est juste sous vos yeux. Il s'agit sûrement d'un boycott. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Soit vous y appartenez, soit vous n'y appartenez pas. Voyez-vous? Attendez simplement qu'il se passe juste un peu plus de temps. Alors vous direz, je vais alors sortir de cela. Non, vous n'en sortirez pas. Vous y êtes déjà, vous avez déjà pris la marque, vous êtes pris avec la marque sur vous. Peu importe combien amèrement Ésaü pleura quand il comprit, et il pleura amèrement, essayant de trouver une occasion pour se repentir, mais il ne put en trouver. Vous resterez là donc, c'est maintenant le temps de fuir. Amos savait que ses amoureux impies allaient bientôt le tuer, car l'Église, l'avait abandonné, lui, Dieu et sa parole, le chemin de la vie. Il s'était écarté du chemin de la vie de Dieu et s'est effrayé le leur. Oh, la parole était une pierre d'achoppement pour eux, et c'est pareil aujourd'hui. La parole de Dieu est une pierre d'achoppement pour le soi-disant chrétien. Parlez-lui du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Parlez-lui du Dieu Saint qui fera que... Eh bien, disent-ils, eh bien, nous avons le Saint-Esprit. Alors pourquoi avez-vous toujours les cheveux coupés? Pourquoi baptisez-vous toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi croyez-vous toujours certaines de ces choses que vous croyez en vous comportant de la manière dont vous le faites? C'est pour montrer que vos fruits le prouvent. Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Vous voyez que cela ne sert qu'à vous prouver que vous parlez de quelque chose dont vous ne savez rien. Oui, monsieur. Oui. Si Amos était ici, il crierait contre leur système. Savez-vous cela? Maintenant, je m'en vais lire un verset avant de terminer. Le verset 8 du chapitre 3. Et lisons. Le lion a rugi. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur a parlé. Qui ne prophétiserait? Écoutez, maintenant pour en terminer, je désire dire ceci. Je suis désolé de vous avoir retenu ici une demi-heure de plus, mais écoutez, je voudrais dire ceci. Je suis un chasseur. Je chasse. Je suis heureux que Dieu m'ait donné quelque chose comme cela. L'autre jour, quand le fusil a explosé, je suis juste redescendu voir si je pouvais encore tirer. Je ne veux pas que ça m'effraie. Si je faisais un accident là sur la route, je ne cesserais pas de conduire une voiture. Si je marche sur le plancher, que je trébuche en cognant mon orteil contre le tapis, et que je passe par la fenêtre, je ne cesserai pas de marcher, voyez-vous. Non, non, Dieu m'a donné un exercice saint. C'était Satan, cela n'était pas Dieu, voyez-vous, c'était Satan. Maintenant, j'en connais l'application spirituelle. Il y a trois d'entre nous dans cette salle, maintenant même, qui savent ce que c'est. Cela vous ferait dresser les cheveux sur la tête. mais je ne le dirai à personne, voyez-vous. Il n'y a que ces trois en guise de confirmation. Maintenant, tout va très bien. C'est tout. Dieu connaissait tout à ce sujet. Et il nous a prévenus là-dessus et tout le reste. Et nous savons cela. C'est en partie ma faute. Et j'avais quelque chose. Une fois, j'avais pris position pour un homme alors que je ne devais pas le faire. J'aurais tout simplement pu l'écouter, voyez-vous. Au lieu de le faire, j'ai dû payer pour cela. Ainsi nous, c'est très bien, c'est moi, et c'est pardonné maintenant, et nous allons continuer, voyez-vous. Oui, Amos, ce 8e verset. Si un lion rugit, qui ne serait effrayé? J'ai chassé dans les jungles africaines. J'ai été là où il y avait des lions, c'est lui le roi des animaux. J'ai passé la nuit dehors, dans les jungles, et j'ai entendu des gloussements, et des hyènes, des rires, des hurlements, ainsi que les différents animaux. Et puis certaines de ces hyènes vous feront glacer le sang dans les veines quand elles poussent des cris. Il y avait des léopards, et des cris plaintifs, et toute autre chose, et aussi des coléoptères, des singes, des babouins, des milliers de fois des cris et des gloussements. Allez partout, vous entendrez toutes sortes de choses se passer, mais qu'un lion rugisse, même les coléoptères vont se taire. C'est un silence de mort. Il reste tranquille. Qu'est-ce? Le roi a parlé. Amen. Si un lion rugit, qui ne serait effrayé? Quand Dieu parle, qui peut s'empêcher de prophétiser? Quand Dieu parle, le prophète crie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le vrai prophète crie. Mes amis, il a parlé, alors que chaque créature de son royaume prenne garde à ce qu'il a dit. Si un lion peut reconnaître qu'il y a une chose qui ne va pas, et quand il rugit, tout dans son royaume se tait, ils écoutent, même les petits coléoptères aussi longtemps qu'ils appartiennent au royaume de ce lion. L'hyène garde silence, malgré ses hurlements stridents, cet éléphant-là qui pourrait soulever le lion et le faire tournoyer avec sa trompe. Frère Branham pousse un cri comme un éléphant, nom de l'éditeur. Mais qu'un lion rugisse, il fermera sa gueule, se tiendra tranquille. Le buffle du Cap, capable de renacler, capable de projeter du feu de son nez. Mais quand un lion saute sur lui, il ne lui fait même pas de mal. Le rhinocéros, avec ses 7 tonnes, des poings blindés, son énorme buffle, qu'un lion rugisse, il s'arrête sur sa piste. Qu'est-ce qui se passe? Son roi a parlé, voyez-vous? Il veut entendre ce qui va être dit. Et quand Dieu parle, le prophète crie. Et alors que son royaume prenne garde à ce qu'il est en train de dire. Dieu a parlé. Que chaque créature de son royaume écoute ce qu'il est en train de dire.
Amen.
Prions. Ô lion de la tribu de Juda, lève-toi et rugis. Tu es en train de rugir dans ce dernier jour. Tes yeux se sont rétrécis. Tu regardes vers le bas. Tu vois le péché de ce monde et de cette nation soi-disant chrétienne. Tu vois le péché de cette nation. Pourtant, elle a été rachetée par le sang précieux. Tu vois comment les dénominations sont en train de fouler aux pieds ta parole. Tu vois comment les faux prophètes mentent. Ils renient la vérité de Dieu. Rugis, ô lion de Juda, et que tes prophètes crient fort. Quand Dieu parle, qui peut s'empêcher de prophétiser? C'est la parole de Dieu qui sort de la Bible et qui se meut au travers du prophète. Comment peut-il garder le silence? S'il le faisait, il éclaterait en petits morceaux. Ô Dieu, que ton prophète rugisse, Seigneur. Rugis ton message, ô Dieu, et que chaque créature de ton royaume prenne garde, qu'il puisse s'arrêter, que les femmes s'arrêtent et s'examinent, que les hommes s'arrêtent et s'examinent, que chaque prédicateur qui écoute cette bande s'arrête et s'examine.
Amen.
Car le lion de la tribu de Juda rugit, et la vraie parole qui vient au prophète proclame et crie, repentez-vous et détournez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ô Dieu, je te confie le message sur bande et cet auditoire visible ce matin pour espérant que tu vas approuver cela et appeler à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Chaque fils et chaque fille de Dieu qui est à la portée, qui va entendre cette bande ou qui est à la portée du son de ma voix. Et je crois, Seigneur, que si tu envoyais Amos ici, il crierait la même chose.
Amen.
car il ne pourrait pas crier, mais il est un prophète du Seigneur, il est celui qui transmet la parole. Il est envoyé par la parole, avec la parole, et il est la parole. Amen. Maintenant, Seigneur, accorde cela au nom de Jésus-Christ. Amen.